Alors bonsoir à tous, merci d'être venus à cette grande première. Nous allons inaugurer devant vous cette nouvelle expérience du café culturel. C'est une première. Nous la réalisons et c'est également une première avec le partenariat de la LICRA. Et je vais commencer tout simplement par laisser la parole à Alain Blum, qui est président de la LICRA Rhône-Alpes. Pour je vais vous filer le mien, c'est à moins que et donc pour un propos inaugural de la LICRA.
Oui, plus modestement, une petite introduction. Donc, Alain Blum, je suis le président de la LICRA Auvergne-Rhône-Alpes, donc une section nombreuse et active. Bonsoir, c'est avec un très grand plaisir que la LICRA Auvergne-Rhône-Alpes, que je représente ce soir, ouvre un chapitre partenarial avec l'Université de Lyon 3. Je ne sais pas si Monsieur le Président est encore là. Autour de ce café culturel qui va aborder la question ô combien importante, présente et lancinante de la censure dans l'art. Tout d'abord, je tiens à remercier France Laredo, coordinatrice des affaires culturelles de cette université, pour son enthousiasme dans les contacts que nous avons tissés autour de cette soirée et d'autres, je l'espère, en perspective. Je tiens aussi à remercier Maria Fernanda Marini, ici présente, qui a été chargé de mission en service civique à la LICRA sur le volet culture et exposition et qui a monté ce partenariat. Quelques mots sur la LICRA, je ne veux pas être très long, mais je vais vous donner quand même quelques repères pour vous dire que la LICRA est une vieille dame très digne qui fête cette année ses 90 ans. C'est une des plus vieilles associations antiracistes. Elle est née en 1926. Bon, je ne vous raconte pas les détails de sa naissance, ça nous mènerait trop loin, mais c'est pas inintéressant et on pourra y revenir. Et dont les maîtres mots, je parle de la LICRA bien sûr, qui colorent ses actions sont la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, pour la défense des valeurs de la laïcité de la République, qui sont aujourd'hui beaucoup malmenées. Ce qui caractérise aussi la LICRA, c'est son indépendance vis-à-vis des partis politiques républicains, son universalisme et son no-dogmatisme, qui fait que l'association que je préside peut s'enorgueillir d'être une sentinelle de ces valeurs qui font la fierté de notre socle commun en termes républicains. Sur le débat de ce soir, moi, j'ai pas forcément la prétention l'expérience de me substituer aux intervenants qui vont succéder ce soir, mais je souhaite juste rappeler que depuis que l'on crée, l'art dérange. Partout et toujours pour les mêmes raisons. Alors il y a un triptyque, hein, ça dérange souvent par rapport à des questions politiques. Les époques du totalitarisme et du fascisme en sont quelque part la caricature, c'est le cas de le dire, mais il n'y a pas que ces époques-là. Le sexe peut être aussi un des piliers de ce qui dérange. La religion, évidemment, et on le vit beaucoup aujourd'hui. Et ce triptyque-là, c'est souvent les trois piliers de la censure. On peut y rajouter pour l'art l'avant-gardisme à la différence d'autres disciplines artistiques qui cassent les codes de l'art. Questionner l'art et les limites, est-ce qu'on peut tout aborder dans l'art? C'est des questions. Existe-t-il une manière plus ou moins correcte d'aborder un thème dans l'art? Quelles sont les limites concernant la liberté de l'artiste? Notre époque est traversée par de violents débats autour de ce thème, notamment autour des caricatures actuellement. À la LICRA, nous avons eu souvent des affaires judiciaires avec Dieudonné Mbala Mbala, qui là aussi témoigne de la limite de l'exercice entre l'humour qui peut tomber sous le coup de la loi, et peut-être on l'abordera dans la soirée. Voilà, en revenant à notre association, s'il faut résumer la LICRA, je le ferai par ces mots. Si nous reconnaissons le droit à la différence, nous considérons que ce combat au droit à la différence n'a même pas à la différence des droits. En clair, nous ne pensons pas que les blancs doivent défendre les blancs, que les noirs doivent défendre les noirs, que les juifs doivent défendre les juifs. Nous sommes résolument pour l'universalisme et l'action collective. Enfin, une adresse à vous, chers étudiants. Il y en a quelques-uns ici, notamment ceux des quais qui ont vécu un froid glacial cet après-midi, pour vous dire que notre porte vous est ouverte si vous souhaitez vous engager dans ces combats qui, je l'espère, sont les vôtres. Pour revenir à la culture, souvenons-nous, lorsque la voix de la raison est impuissante, l'art, la fiction littéraire, l'art plastique, le cinéma, la chanson, le théâtre, la peinture permet souvent de toucher les cœurs. Voilà.
Alors, ce café culturel vient en résonance avec l'exposition en cours qui vient de s'installer de Marie Auger, notre artiste en résidence, plasticienne, ici présente. Je vous engage à aller à la rencontre de l'œuvre de Marie Auger dans la bibliothèque, au sous-sol, dans la salle d'exposition. J'en ai pris pour partie la mesure tout à l'heure et je ne suis pas déçu. C'est magnifique. Bref, vous ferez vous-même votre opinion. C'est également en résonance avec une exposition qui est faite à l'ABU d'ouvrages interdits, puisque au fond nous allons en partie parler de cette question qu'évoquait Alain Blum, de la censure, de l'art, de voilà. Donc pour ce faire, nous avons réuni trois paroles singulières. À ma gauche, Édouard Trépose, qui est juriste, professeur ici à l'université Jean Moulin Lyon 3, professeur de droit privé, spécialiste des questions qui concernent l'auteur, entre autres choses, le droit d'auteur, peut-être ses devoirs, c'est une question aussi qu'on pourra peut-être aborder. Bien sûr, le droit d'auteur est une donnée très importante, mais n'y a-t-il aussi des devoirs de l'auteur ? À ma droite, Quentin Bazin, qui est doctorant en philosophie, qui apportera un point de vue particulier. Et Oriane Moretti, vous l'aurez reconnu, par déduction. Oriane Moretti qui apportera un regard historien ou historique et aussi artiste, puisqu'elle a, entre autres facettes, la particularité d'être créatrice, chanteuse lyrique, soprano, je crois, oui, danseuse et dramaturge. Et donc, l'idée que je me suis faite en observant le titre un peu mou du genou que nous avons proposé à cette rencontre autour de la liberté de création, hier, aujourd'hui, demain. Alors, nous commencerons par hier, et c'est Oriane Moretti qui incarnera ce passé. Voilà. Ensuite, nous ferons aujourd'hui avec Édouard Trépose, et nous ferons demain avec Quentin Bazin, parce que il vous expliquera pourquoi ses recherches en cours et sa thèse ont aussi une visée prospective. Je me propose de poser peut-être des questions pour faire un peu d'interaction entre les trois propos. Nous allons les écouter d'abord chacun indépendamment, puis je ferai rebondir les propos entre eux, et ensuite nous nous tournerons vers vous pour des échanges que j'espère impatients et fructueux. Je commence par hier avec Oriane Moretti. Bien sûr, vous continuerez à vous présenter plus finement que je ne l'ai fait si vous le souhaitez. Au téléphone, vous dites Oriane Moretti. Nuance.
Bonsoir à tous. Merci d'être là. Je remercie les gens qui m'ont invité, dont je connais pas tous les prénoms, Christian. Merci ma sœur qui est à Lyon 3. Elle est engagée dans l'écologie. Elle est là ce soir et qui m'a permis d'être donc parmi vous. Je me présente rapidement. J'ai un parcours un peu atypique. J'étais danseuse au ballet Roland Petit il y a maintenant beaucoup de temps. Christian vient de dire que j'abordais le thème de la liberté d'expression, de la censure hier. Bon, je n'ai pas mis ma perruque blanche, mais j'ai donc un parcours à la fois artistique et universitaire. Après mes études au ballet, donc Roland Petit dans l'école et au ballet, je suis devenue professeure d'histoire. J'ai enseigné 4 ans en Saint-Denis et je me suis spécialisée dans la propagande entre les deux guerres. J'ai fait ma maîtrise avec Pascal Horry et Claire Andrieux à la Paris 1 Sorbonne sur un fond d'affiche extrêmement important et non étudié d'un parti politique nationaliste, donc de droite, mais républicain et anti-hitlérien, le Parti des Républicains Nationaux, qui était dirigé par Henri de Kérélis, un espèce de De Gaulle qui n'a pas eu son heure de gloire. Voilà. Suite à cela, j'ai enseigné et puis j'avais continué. Je m'étais blessée comme danseuse et j'ai trouvé une autre voie qui était la voie du chant lyrique et j'ai eu mon premier contrat au Capitole de Toulouse en 2007 et je suis devenue artiste lyrique après avoir été historienne et prof d'histoire. Et aujourd'hui, je fais de la création dans ce monde classique, c'est-à-dire que je crée soit pour des danseurs, pianistes, des formes petites qu'on appelle opéra de chambre ou des adaptations. Dernièrement, le journal d'un foot gogol pour un danseur de l'Opéra de Paris et un pianiste. Et j'ai créé mon dernier opéra avec une équipe un peu grande. C'est un opéra contemporain qui s'appelle Amok. Et si vous connaissez Stefan Zweig, sa nouvelle, c'est à la fois un terme dans le dictionnaire, une course suicidaire dans masculine, mais également c'est l'acronyme de Alma Mahler et Oskar Kokoschka. Donc c'est l'histoire passionnelle de ce couple de la Vienne au crépuscule, en tout cas de l'apocalypse joyeuse, pour reprendre le titre d'une exposition à Beaubourg en 98, c'est-à-dire de ce monde pendant la première guerre mondiale, et qui implose juste après, suite à ce traumatisme de la Première Guerre mondiale. Comme je suis spécialiste de l'expressionnisme allemand, plus spécifiquement, c'est-à-dire que de toute l'iconographie et les courants culturels et artistiques, évidemment la liberté d'expression dans cet entre-deux-guerres, dans ce contexte politique, historique, est absolument passionnant. Ici, c'est mon opéra et, dont j'ai écrit le livret en allemand et français. C'est une histoire entre deux personnes, mais c'est une histoire de nos civilisations européennes. Voilà. Par rapport à cette question que je traite par rapport à hier, je l'ai axée sur pourquoi. Enfin, mon sujet de maîtrise était donc par rapport à ce fond d'affiches en couleur qui était à la BDIC de Nanterre et de l'Hôtel des Invalides. La BDIC qui est vous étudiants, si vous avez l'occasion d'étudier, c'est la bibliothèque BDI internationale de documents BDI de contemporaine. BD documents internationaux contemporaines, qui est dirigé, enfin en tout cas le conservateur, c'est Laurent Gervereau. Laurent Gervereau, je vous ai apporté quelques... Enfin, je travaille sur l'iconographie, donc c'est important d'avoir des choses matérielles qu'on puisse toucher. Laurent Gervereau, c'est le spécialiste de l'image et de la manipulation par l'image. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'actualité. Et il a écrit plusieurs bouquins, dont « Un siècle de manipulation par l'image ». Vous pouvez le consulter, c'est-à-dire comment on décrypte l'image. Manipuler, c'est, ça vient du latin manus, la main, c'est manipuler l'image, donc un objet, que ce soit le cinéma, la radio, etc. Mais ici l'image, et manipuler qui, c'est-à-dire manipuler les publics. Voilà, manipulation, manipuler l'image, et ensuite manipuler les publics, c'est-à-dire dans un but. Donc j'ai apporté plusieurs bouquins de la BDIC, La course moderne, qui est une confrontation de l'iconographie entre les deux guerres, entre la France et l'Allemagne, voilà, qui montre comment les petits Français, ça c'est une affiche sur laquelle j'ai travaillé, qui est plutôt sympathique entre les deux guerres, et comment dans les affiches de propagande on voit la différence et l'influence du contexte mais également du traitement par les artistes de cette post-période de Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la France qui est plutôt bon enfant et puis vous le verrez autre part, les Allemands qui sont plutôt dans le morbide avec des dessins très noirs et très structuré. Ma maîtrise sur ce panel d'affiches m'a apporté le constat d'un foisonnement, d'une richesse artistique dans la politique. C'est-à-dire qu'on a une porosité à l'époque de l'entre-deux-guerres, une capillarité, une transdisciplinarité entre la politique et l'art, vraiment qui communiquent. C'est-à-dire que, on va dire qu'on voit dans ces affiches, ce sont des caricaturistes, ce sont des dessinateurs, ce sont des peintres, vous pouvez les regarder, ce sont des architectes qui participent à la vie, à la politique et aux affiches politiques. Donc il y a des vases communicants, il n'y a pas d'étanchéité entre l'art et la politique. Il y a des publicistes très connus en France, c'est Cassandre, pour les citer, c'est Nep, qui sont visuellement présentes dans l'espace public. C'est-à-dire que l'affiche, contrairement à aujourd'hui, l'affiche politique, on placarde des papillons, on placarde pendant les élections partout sur les murs. Je vous fais une comparaison par rapport à aujourd'hui parce que on était en élection présidentielle il n'y a pas si longtemps et qu'aujourd'hui l'affiche politique c'est devant les écoles et c'est très très cadré. Voilà. C'est-à-dire que moi je suis revenue à Marseille 15 ans après, en mai, pendant les élections. Et moi, quand j'étais petite, il y avait des affiches de Le Pen, enfin, bon, les frontistes du Sud-Est, qui étaient collés partout, sur les autoroutes, sur les piliers, etc. Il y avait eu même des morts entre, je pense, des colleurs d'affiches dans les années 80, il me semble. Et quand je suis retournée, eh bien, ces affiches, il n'y avait pas d'affichage sauvage. Donc, c'est très, aujourd'hui, enfin, je voulais dire juste un petit contexte, c'est que j'ai remarqué que c'est très policé par rapport à, voilà, les années 30, il y a quand même une bataille des murs très, très violente, notamment en Allemagne, entre le Parti communiste et le NSDAP, entre les milices communistes et les milices nazies, SASS, pour cette bataille des murs qui est une bataille de propagande pour gagner les élections. Aujourd'hui, bon, voilà, c'était juste entre hier et aujourd'hui la comparaison. Donc il y a une visibilité, une présence de l'art en politique, et donc le constat c'est qu'il y a un engagement des artistes et un art engagé dans les années 30. Enfin, en tout cas, dans l'entre-deux-guerres. L'art est présent dans la vie par les affiches, donc, comme je vous ai dit, sur les murs. Ça pose la question qu'on est dans un 20e siècle qui est un siècle des masses. C'est-à-dire qu'on a des militants, on a des usines gigantesques, on a la sortie de l'usine Renault, on a la sortie de l'usine Citroën. Et donc, il y a vraiment une masse qui est politisée, il y a les cellules de parti, il y a des tractages, et ça se voit dans les affiches, en fait, hein, cette masse par rapport peut-être à aujourd'hui. Le militant est très, très présent, et la propagande a vraiment une historique très nouvelle. La Première Guerre mondiale, c'est la naissance de la propagande. C'est d'abord une propagande militaire, pour gagner la guerre. Et donc, l'après-guerre, c'est l'expansion de ce germe de la propagande politique qui est née de la Première Guerre mondiale. Pour être un peu plus précise, c'est là que naît en politique le slogan, le sigle, les logos, c'est-à-dire quelque chose de simple, d'efficace visuellement. Le sigle nazi, on le reconnaît, le sigle du Parti communiste, on va le reconnaître très vite. Bon, plus tard, le Parti socialiste avec la rose. Donc, c'est des choses qui empruntent à la publicité naissante. Donc, propagande et publicité, c'est l'ère des masses. Hein. On a un très bon bouquin d'Osbaum sur l'ère des révolutions, l'ère des masses. Il faut que les masses, qui ne savent pas forcément lire, même si à l'époque, l'école républicaine a déjà ces années derrière elle en France, il faut qu'elle, voilà, parti nazi avec un sigle, un brassard, parti communiste, il faut que ça soit la simplification. Deuxième chose, c'est la question de la violence à cette époque-là, dans l'expression artistique, dans ces affiches. Comme je vous ai dit, il y a la bataille des murs qui est très violente, hein, il y a une violence vraiment, il y a des morts à chaque fois dans les élections pour l'affichage. On a une éclosion des termes très importants durant cette période de bourrage de crâne, d'embrigadement de la jeunesse. Bon, je vous apprends rien, je ne vais pas faire un cours sur les jeunesses hitlériennes, les babillots et etc. mussoliniennes, même si c'est plus au programme de troisième aujourd'hui, malheureusement, dans les collèges. Il y a une instrumentalisation, un embrigadement qui fait que dans l'affiche, la simplification, le trucage, la falsification, le photomontage, puisque tous ces médias nouveaux, hein, qui se développent avec l'ère des masses, c'est la photo, le cinéma, la radio, pas encore la télévision, mais des choses qui vont avoir un impact énorme sur les masses. C'est des vecteurs très faciles. C'est pas un livre avec plein de mots, etc. Non, c'est une affiche, un visuel, un slogan. Ça se consomme, voilà. on est dans le début de la consommation du politique de façon massive. La violence, pour reprendre le question de la violence, je reprendrai là le terme de Gérard Mauché dans son livre sur la Première Guerre mondiale, c'est la brutalisation des sociétés européennes à cette époque. C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale, elle a eu un impact tellement violent sur l'individu que du champ de bataille, cette violence, elle se translate dans la rue et sur les affiches, évidemment. Et on peut voir comment elle est traitée différemment en France, qui est un pays vainqueur, comme ici, la petite Marianne avec la faucille, enfin une affiche anti-bolchévique communiste de base, qui fait plutôt penser à, je sais pas, la petite Marianne toute gentille, et à côté des affiches allemandes où, enfin, si on prend Autodix par exemple, hein, si vous connaissez le travail d'Autodix, où il y a des morts partout, qui sont, voilà, très très morbides. La morbidité dans les affiches allemandes et la violence, où il y a des poings, il y a des enfants décharnés, post Première Guerre mondiale. C'est noir, voilà, j'allais dire. Donc cette brutalisation des sociétés européennes, elle se voit dans les affiches politiques et dans la liberté d'expression des artistes via la politique et leur engagement. Comme je suis spécialiste de l'expressionnisme, j'aime bien dire aussi que l'expansion de l'expressionnisme est donc dans l'art comme dans la politique à travers ces artistes engagés. L'expressionnisme, si on le découpe, c'est expression. Ex, c'est sortir, exit. Et donc, ça en sort quoi? On sort de la pression. C'est-à-dire que c'est, j'allais dire, cette Première Guerre mondiale, c'est à la fois une explosion et une implosion. C'est ce que j'ai voulu montrer dans l'opéra parmi le livret, l'opéra que j'ai créé avec le compositeur suisse François Catin, c'est que l'individu, il a implosé et il a explosé. Les sociétés européennes ont implosé comme explosé. Et ça se voit dans l'art. Les artistes expressionnistes vont développer la morbidité et tout ce qui est l'inconscient dans leurs œuvres. On va parler d'Oscar Kokoschka, de Autodix. Egon Schiele, même s'il est moins engagé que Oscar Kokoschka, on a une prédominance, en fait, une dualité entre les partis politiques, la massification de la politique, des militants, etc., les sorties d'usine avec toute cette masse, la consommation de masse qui se met en place, et dans l'art, l'expressionnisme qui va aller contre, c'est-à-dire mettre en avant l'individu, la morbidité, la solitude, la souffrance individuelle, psychique, qui est due à ce traumatisme de la Première Guerre mondiale, à cette brutalisation de l'individu pendant la Première Guerre mondiale. Si on regarde, par exemple, les dessins ou les peintures à l'époque post-Première Guerre mondiale, Georges Gross, qui est un grand caricaturiste et dessinateur de l'Allemagne entre les deux guerres, qui fait beaucoup de dessins pornographiques de la bourgeoisie. Et à côté, on a Ludwig Meiner. Mais c'est pareil pour Oscar Kokoschka. Ce sont c'est la prédominance de la psychanalyse, j'allais dire, hein, de l'inconscient, c'est-à-dire l'individu avec toutes ces tortures déstructurées par rapport à ce qu'on va voir se développer dans les idéologies nazies, totalitaires, soviétiques, de l'eugénisme, le culturisme, l'homme nouveau, grand, beau. Et c'est pour ça ce qui nous amène à voir les artistes dégénérés dans l'expression de la liberté d'expression à cette époque-là, surtout dans l'Allemagne nazie, mais j'allais dire dans l'Union soviétique avec la mise au ban de certains artistes, c'est que ces artistes-là qui veulent exprimer la souffrance individuelle, la fragilité, la faiblesse, le psychisme torturé de l'individu post-Première Guerre mondiale, du soldat qui a souffert, eh bien là, l'État, les lignes directrices politiques qui sont au pouvoir, hein, les nazis comme les staliniens, vont censurer ces artistes et vont les mettre au banc de la société de leur régime comme artistes dégénérés. Comme on l'a dit, dégénérés, c'est un terme psychiatrique. C'est-à-dire que ces régimes n'acceptent pas que l'individu, d'abord, qui soit présenté comme individu seul, ayant sa liberté, ils n'acceptent pas qu'on le montre faible. Parce que l'homme nouveau nazi, l'homme nouveau soviétique, c'est le combattant, c'est le militant, c'est celui qui chante, c'est pas celui qui crie. Munch, par exemple, le cri de Munch, ou la première œuvre de Kokoschka, qui s'appelle, je ne me souviens plus, en allemand, mais que il a fait une œuvre qui s'appelle Amokläufer, le coureur d'Amok. C'est un homme qui est seul, qui crie, il a fait une sculpture, sa première sculpture qu'il a fait connaître, qui a fait scandale, c'était une tête en argile avec la bouche ouverte, un cri. L'homme expressionniste, il crie, il chante pas. Il n'est pas avec des grands pectoraux en train de chanter. Je ne vais pas vous faire une démonstration, mais c'est un peu le mème de la publicité pour Dior. Je fais le rapprochement, mais vous en ferez ce que vous voudrez. Est-ce que vous avez déjà vu un mec chilien, on va dire, Egon Schiele, dans les publicités de Dior ? Non, alors je fais juste un petit clin d'œil entre aujourd'hui, qu'est-ce que la propagande et qu'est-ce que la publicité ? Ça s'est un peu décalé aujourd'hui. Peut-être que tout le monde achète Dior, comme on achetait sa carte, prenait sa carte au parti. Donc Schiele, en effet, et Kokoschka, ce sont des êtres malingres, déformés, rachitiques, et ça plaît pas aux grands guides et aux grands führers. Je vais juste terminer sur la question, le regard hier, aujourd'hui. Par rapport donc à ce travail que j'avais effectué sur ces affiches et qui m'ont fait réfléchir sur qu'est-ce que l'art engagé aujourd'hui, quelle est la place de l'artiste dans nos sociétés, est-ce qu'il a encore une voix avec un X et avec un E. Hier, je pense que la propagande, elle s'affichait clairement. C'est-à-dire que vous aviez un mur, vous aviez un logo, vous vous dites ça, c'est une affiche communiste. Il y avait des codes de couleurs, etc. Aujourd'hui, je n'ai pas ma carte dans aucun parti. Quand je sors du travail, d'abord, je suis toute seule parce que je sors pas d'une usine Renault, elle n'existe plus. Donc, il y a personne pour m'encarter ou pour me, etc. Donc, cette propagande, elle est, ce que disait Laurent Gervaux, elle est plus insidieuse, elle est silencieuse, elle est sournoise. On faisait la comparaison avec les pubs Dior. Il faut la trouver ou il faut la chercher ou il faut s'en rendre compte. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des clés pour la trouver ou en tout cas une éducation peut-être pour savoir la déchiffrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez à Ikea, est-ce que vous pouvez vous demander, tiens, tout le monde est à Ikea chez lui ou... Je sais pas, tout le monde va à Carrefour et le logo de Carrefour, est-ce que c'est pas également de la propagande? Voilà, c'est des questions, je pose des questions, je ne juge pas. La propagande, elle s'introduit non plus dans la masse, elle s'introduit dans nos foyers de façon individuelle. C'est-à-dire, vous ouvrez votre smartphone et votre ordinateur et bim, il y a le logo de Google. Bim, il y a la publicité pour... les lessives, je sais pas quoi. Donc on ne vous tend plus le tract du Parti communiste à la sortie de l'usine, mais on vous le tend différemment. Certainement. Enfin, en tout cas, c'est juste une question. Un constat personnel, c'est la diminution de la place de l'art en politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand j'étais à Marseille pendant les élections présidentielles, je me suis dit... Si je regarde les partis, comment ils traitent leurs affiches et leurs candidats, qu'est-ce que je constate ? Ils ont tous une belle photo en bleu ou quoi. Mais où est l'artiste derrière ? Est-ce qu'il y a un artiste ? Juste en titre de comparaison, cette affiche-là, par exemple, il y a beaucoup de textes, il y a de la couleur, il y a des dessins. Enfin, donc aujourd'hui, on a une prédominance de la photo, mais cette photo... Est-ce qu'elle est artistique ? Est-ce qu'il y a un message artistique derrière ? Voilà, c'est la question que je pose. Personnellement, le constat, c'est l'appauvrissement de l'iconographie politique. C'est un jugement personnel. Deuxièmement, la violence dans nos sociétés aujourd'hui par rapport à hier. Voilà. Est-ce que la violence des affiches, est-ce qu'elle est plus présente aujourd'hui ou elle était plus présente hier? Et si elle n'y est pas, enfin, si vous, la réponse est non, la violence, où est-elle? Où se cache-t-elle? Voilà. Je terminerai sur le constat de Gervais Roux dans son bouquin, c'est que aujourd'hui, il y a la loi Pleven pour interdire ou en tout cas punir l'incitation à la haine sur les affiches, ou en tout cas sur dans le domaine public, dans l'espace public. La loi Pleven, donc, c'est une espèce de frein, en tout cas de garde-fou à la liberté de la presse de 1881. Cette loi Pleven, elle a été émise en 1972. Avant elle, en 1939, il y a la loi Marchandeau qui avait été éditée, enfin, parce que la violence des affiches avait pris une telle ampleur. Vous pensez aux caricatures sur les juifs, les slogans anti-juifs, etc., antisémites. Il y avait une loi qui cadrait ça. Sous Vichy, elle a été enlevée. Il a fallu attendre 1972. Aujourd'hui se pose en effet avec les caricatures de Charlie Hebdo, tous ces débats de la liberté d'expression et de la censure. Jusqu'où on peut aller? La loi, qu'encadre la loi? Petite anecdote, je chantais à Orange il y a un mois et je me suis fait embarquer par la police. Voilà. Parce que je chantais dans un théâtre qui avait été construit par les socialistes en 1993, qui est le Théâtre des Princes à Orange. Et la municipalité, qui est FN, a boulonné à l'entrée de... Vous pouvez taper hein, Théâtre des Princes, là, sur Google, tout de suite. Théâtre des Princes, Orange. Et vous allez voir l'image qui apparaît sur votre smartphone. C'est pas l'image du théâtre, c'est l'image de la pancarte de la municipalité orangeoise devant le théâtre, où il y a marqué « Ce bâtiment d'une laideur innommable ou indéniable a été construit par les socialistes grâce à l'appui du ministre... » de l'époque socialiste. Il a coûté 19,5 millions d'euros aux contribuables orangeois. Point de suspension. Évidemment, quand je suis rentrée pour chanter dans ce théâtre, je me suis dit, mais cette affiche, il aurait pu marquer à la place de socialiste, juif, arabe, homosexuel, lesbienne. Et là, on aurait été sous la loi Pleven. Parce que la loi Pleven, c'est toute incitation à la haine raciale, pour toute origine, son origine, ethnie, nationale. Socialiste, en effet, c'est pas une nationalité, c'est pas une race. Mais ça montre donc les limites de la loi, et ça montre aussi que, évidemment, quand je suis sortie du théâtre, il n'y avait personne, j'ai pris mon stabilo et j'ai marqué pancarte nazie en énorme. Évidemment, le parking avait une caméra plus loin, et là, la voiture de police est arrivée. Qu'est-ce que vous faites, mademoiselle? Je fais de l'art. Et donc j'étais embarquée à minuit au poste de police, mais ils m'ont dit vous avez pensé à l'histoire en regardant cette affiche? Non, pas du tout. Je faisais du tourisme nocturne. Voilà. Je pense que le débat est ouvert. Merci.
Merci Oriane. Vous avez évoqué la notion d'art dégénéré. Petit rappel pour les plus jeunes, il s'agit bien d'une catégorisation de l'histoire de l'art, au fond, mais une catégorisation politique telle qu'elle émane du régime nazi, et donc était ainsi stigmatisée. Tout, comme vous l'avez dit, tous les artistes, ça a commencé par l'art plastique, mais ça a aussi touché la littérature, la musique, et donc tous ceux qui ne correspondaient pas au canon nouveau, régénérant que vous avez décrit, c'était au fond, dans une ambiance évidemment tout à fait délétère, une querelle des anciens et des modernes. En réalité, celle-ci était particulièrement violente et lourde de conséquences, puisque certains de ces artistes l'ont payé de leur vie dans des camps. Mais parmi ces auteurs, il y avait Picasso et beaucoup d'autres, Kokoschka et beaucoup d'autres qui peuplent bien sûr nos musées avec un juste retour de l'histoire. Vous avez donc évoqué la question de la propagande et de ses avatars contemporains, et bien sûr la question connexe, c'est celle de la censure que vous avez évoquée aussi et pour laquelle peut-être le juriste de service va proposer son point de vue technique. D'une façon qu'il jugera utile. Merci Edouard Trépoz.
Donc technique technique et utile, je vais essayer. Non, c'est une question qui est très importante et il faut l'aborder en disant qu'elle est très relative. C'est-à-dire qu'il y a sur la liberté de création et l'équilibre qu'il faut trouver entre l'interdit, qui est donc la censure, et la liberté. Il faut savoir qu'il y a un relativisme historique et un relativisme aussi géographique. Il ne faut jamais oublier que l'équilibre que nous avons ici n'est qu'un équilibre parmi d'autres. Il ne faut jamais oublier qu'aux États-Unis, ils ont une conception beaucoup plus large de la liberté de création, de la liberté d'expression, on va sous-ongler après sur la liberté de création, avec l'autorisation des hate speech, avec le premier amendement qui est extrêmement ouvert. Et avec, voilà, on a, et je crois que c'était la LICRA qui était dans cette superbe affaire qui est l'affaire Yahoo, où étaient en vente depuis les États-Unis sur le site Yahoo des objets nazis. Et là, on a vu cette confrontation de valeurs, d'une certaine manière, entre la liberté et nous, notre point de vue qui dit que la liberté doit s'arrêter à un moment où l'innommable est là. Alors, la difficulté, c'est d'arriver à... Là, on n'est pas sur la liberté d'expression, on est sur quelque chose qui est un élément de la liberté d'expression, c'est la liberté de création. Avec sans doute un point qui, pour moi, est le plus compliqué et auquel vous avez fait référence, c'est « je suis un artiste ». On verra que moi, en tant que juriste, j'aimerais bien qu'on ne se pose pas cette question. Parce que nous, juristes, je ne crois pas que nous ayons la réponse et la possibilité de dire qui est artiste. Alors, je vais commencer par vous donner 3-4 affaires et puis ce sera plutôt... des affaires pour discuter et après pour lancer la discussion. La première affaire, je vais me mettre un peu hier, pardon. La première affaire, bien évidemment, c'est quoi ? C'est le procureur Pinard, c'est Madame Bovary, c'est Flaubert. Et là...
C'est moi.
Voilà, c'est exactement. Mais c'est l'incapacité, à l'époque... pour Flaubert, qui ne s'est pas justement défendu comme Théophile Gautier l'a superbement défendu après dans la préface de Mademoiselle Maupin, il s'est vraiment défendu pour dire non, mon livre n'était pas immoral. Mon livre n'était pas immoral. Et pourtant, là n'était pas le propos. Et c'est ça que va dire de manière magnifique Théophile Gautier dans sa préface, en disant ça n'est pas le personnage, ça n'est pas derrière le personnage, l'auteur, ça n'est pas parce que je décris un personnage athée, que je décris un personnage ivrogne, que je décris une femme adultère, que je suis moi-même athée, ivrogne, adultère. Donc ça, c'est l'élément de base, mais il faut bien comprendre que Flaubert ne s'est pas défendu avec cette distanciation. Il s'est défendu en essayant d'expliquer non, moi je ne suis pas immoral. Bon. Alors, la difficulté, ça va être après d'arriver à mettre en place juridiquement, cette logique de distanciation. Arriver à comprendre effectivement quand et pourquoi, finalement, ça n'est pas l'auteur qui parle, et c'est le personnage, et que donc des propos qui sont pénalement incriminés s'ils avaient été dits par la personne, ne le sont pas parce qu'ils sont dits par un personnage. Alors, on a beaucoup de cas, il y a une affaire qui, à mon sens, est très intéressante. Alors, on quitte Flaubert, hein, c'est Aurel San. Qui connaît Aurel San ? Aurel San est un rappeur qui est peut-être un peu plus connu des jeunes. Un rappeur qui campe des personnages, un peu des paumés, des losers, et qui ont des propos, je ne sais pas si je peux lire ces propos tellement ils sont difficiles, mais des propos d'une dureté à l'égard des femmes qui est absolument... j'ai la décision sous les yeux, hein, je... Oui, une décision de justice, non, mais qui reprend les propos. Je vais te marier Trintignée... Enfin, c'est... c'est vraiment d'une dureté totale. Et pourtant, et à mon sens légitimement, la Cour d'appel de Versailles va dire non, ça n'est pas Orelsan qui parle. À chaque fois, il campe un personnage. Il s'exprime dans un style qui est particulier, c'est le style du rap, et la Cour dit brutal, oui, on accepte la brutalité, on accepte les idées qui dérangent. Oui, les propos sont inacceptables, mais encore une fois, ça n'est pas Orelsan qui les profère, ce sont ces personnages. Il y a une distanciation, et cette distanciation justifie que nous n'incriminions pas les propos d'Orelsan. Alors, cette décision a été assez mal comprise. Une sociologue qui aime bien Nathalie Heinisch a fait une tribune dans Libération en disant « Ah, mais c'est scandaleux, les artistes peuvent donc tout faire, c'est l'impunité de l'artiste ». Ça n'était pas la question ici. Il n'était pas non incriminé parce qu'il était artiste. Il n'était pas incriminé parce que ça n'était pas lui qui parlait, parce qu'il y avait une distanciation. Et cette distanciation, on peut la mesurer. Et là où c'est intéressant, c'est que parfois, cette distanciation n'a pas lieu. Je vais vous citer une autre affaire, littéraire cette fois-ci. Alors, bon, un livre que je n'ai pas lu, « Pogrom » de Burkel. Mais clairement, il y avait des propos d'incitation à la haine. Dans l'ouvrage, la Cour a fait jouer la distanciation. Bon, sauf qu'une femme que la LICRA connaît bien, une avocate de grande qualité sur ces sujets, Agnès Tricouard, quand elle commente la décision, dit « Attention, il faudrait peut-être lire le livre en prenant en compte la dédicace. » Et la dédicace, c'est aux Noirs et aux Arabes. Et le propos est totalement, de tout le livre, totalement antisémite. Et donc là, on peut se demander s'il y a toujours cette distanciation, s'il y a toujours, si au fond, il n'y a pas un surgissement du réel, et finalement, le personnage est l'auteur. Mais la difficulté du droit, c'est d'arriver à montrer, à un moment donné, que le personnage devient l'auteur. C'est une réalité quand on prend Dieudonné. On n'a pas de problème à comprendre que le personnage est l'auteur. Mais encore une fois, il faut l'expliquer, ça. Il faut l'expliquer pour que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas de différence de droit. C'est simplement le droit est le même pour tous. Mais le droit suppose un certain nombre de conditions et là, une distanciation que Dieudonné n'a pas. Dieudonné a tenté d'obtenir l'exception de parodie pour Shohanana. La décision de TGI de Paris a refusé l'exception de parodie en disant qu'il n'y avait pas d'humour, qu'il n'y avait pas de distanciation. Mais voilà, c'est donc le point de départ du droit, c'est d'arriver à prendre en compte cette distanciation. Et je pense que c'est fondamental, et je pense qu'on ne doit pas le faire en se fondant sur une approche artistique ou non. Et c'est pour ça que je vais vous parler d'une dernière décision qui est toute récente, sur Golgotha Panique, qui est une œuvre de Garcia, qui a fait l'objet d'une décision de la Cour de cassation. Alors, pour moi, juriste, alors évidemment, là, de la même manière, hein, on n'a pas retenu l'incrimination et la Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas de problématique et elle a repris, elle a validé d'une certaine manière, pardon si c'est technique, hein, j'espère que c'est pas trop technique, mais vous savez, il y a des degrés de juridiction, bon, et elle a repris le positionnement de la Cour d'appel de Paris. Et la Cour d'appel de Paris a ce propos qui, moi, me gêne un petit peu, et on va en parler, d'une œuvre de fiction à vocation artistique qui ne prétend aucunement à l'affirmation d'une vérité. Très bien, je suis ce propos, je reconnais d'ailleurs le talent d'Agnès Tricouard, puisque c'est son idée de dire que l'œuvre d'art, elle est pleine de sens différents et que donc elle ne peut pas être incriminée. Très bien. Sauf que, autant je crois que le droit tient un instrument assez aisé à déterminer par la distanciation, autant la question artistique, et de dire parce que c'est artistique, il y a une pluralité de valeurs, elle est très difficile à établir. Elle est très difficile à établir parce que nous ne savons pas qui est artiste. Et moi, je ne sais pas juridiquement discriminer celui qui est... Discriminer, c'est le terme juridique. Hein. On met dans des catégories, nous, les juristes. Donc voilà, on discrimine tout le temps en mettant dans nos catégories ceux qui sont, ceux qui ne sont pas. Donc si artiste devient une catégorie, et parce que je produis une œuvre artistique, de ce simple fait, sans se poser la question de la distanciation, c'est autre chose, de ce simple fait, je ne peux pas tomber sous le coup de la loi pénale. Là, je crois qu'on va être dans une situation difficile parce que Est-ce qu'effectivement vous étiez artiste quand vous avez tagué? Est-ce que, je ne sais pas, quel est l'artiste, quelle est la définition? Moi, juriste, j'ai pas mal réfléchi à ça, je dis pas que j'ai la solution, mais je n'ai pas d'éléments pour savoir qui est artiste. Est-ce que c'est la définition professionnelle? Est-ce que c'est, on va revenir sur une affaire Brancusi, que vous avez peut-être entendu parler, où Brancusi avait ses superbes oiseaux dans l'espace et se posait la question pour une pure question fiscale de savoir s'il était artiste. Alors on a dit oui, il est artiste parce qu'il était très connu. Est-ce que c'est satisfaisant? Voyez, donc je crois que le droit doit effectivement appréhender ça. Je pense que le critère de la distanciation est un très bon critère. J'avoue être un petit peu gêné par l'irruption de ce critère artistique. Parce que moi, je n'ai pas les éléments pour le délimiter. Et puis, ne pas oublier que parfois aussi, c'est l'artiste lui-même qui demande la censure. J'avais dit que j'en parlerais pas, mais j'en parle quand même. C'est cette très belle affaire sur le dialogue des Carmélites. Dialogue des Carmélites, qui est un opéra de Poulenc sur un livret, enfin sur une nouvelle de Bernanos, et mise en scène à l'Opéra de Munich, mise en scène dénaturante, parce qu'à la fin, les Carmélites qui sont censés, je vois mes étudiants qui sont ravis parce que j'en ai parlé en cours, les Carmélites qui sont censés mourir au son de la guillotine ne meurent pas. Elles sont libérées par Jeanne la Blanche. Tout est respecté, on entend bien le son de la guillotine, mais elles sont libérées. Et donc Bernanos et Poulenc, les héritiers, attaquent. Et ils obtiennent l'interdiction du DVD et de la vente. La censure, là, elle provient de l'artiste, des héritiers de l'artiste, qui demandent le respect. Donc vous voyez que c'est des sujets extrêmement difficiles où il faut être dans une logique d'équilibre et il faut prendre en compte des critères qui sont des critères opérationnels. Le critère de la distanciation me paraît un critère opérationnel. Le critère artistique, moi, je ne suis pas en capacité juridiquement de dire qui est artiste, qui ne l'est pas. Mais peut-être que justement, et c'est là où c'est intéressant, ce dialogue à trois voix entre des artistes, des philosophes, nous permettront de...
Mais je comprends pas le critère artistique. Moi, je suis citoyenne d'abord, et donc soit je suis sous la juridiction
vous entendez
de la loi.
Vous avez besoin du micro ou ça va? Oui.
À aucun moment je me pense artiste dans ce que je fais. Je suis d'abord citoyenne. Oui, je suis artiste parce que j'évolue dans le milieu artistique. Mais enfin, quand je vais pancarte nazie ou quand je fais de l'opéra et que je mets en scène donc dans le livret Werfel, Schrecker, Oskar Kokoschka, je veux dire, si jamais mon propos dépasse la limite de la loi, je suis condamnée en tant que citoyenne et pas en tant qu'artiste. Donc, pour moi, le propos artistique, non. Oskar Kokoschka était un artiste, mais quand il fait son manifeste en 1938 en exil en Angleterre pour appeler à la résidence des intellectuels européens, il est ni juif, il est ni artiste, il est citoyen en exil. Et je pense que c'est là où j'allais dire, moi je suis artiste aujourd'hui, mais on est tous artistes. Comment on est tous...
C'est que le droit considère... Pardon, ça c'est technique.
Ah, le droit, pardon.
Moi, je parle le droit, je suis obligé. La Cour européenne des droits de l'homme vous dit que dans l'équilibre et dans l'arbitrage qu'elle doit retenir, pour essayer d'avoir à se positionner sur... Parce que la religion est aussi, enfin la liberté religieuse est aussi une liberté fondamentale. Parce que si je prends le droit à la vie familiale, le droit à la vie privée, ce sont aussi des libertés qui peuvent se confronter à la liberté de création. Et donc dans cet équilibre, elle fait émerger la liberté de création, d'accord ? Et elle va considérer que cette liberté de création suppose une attention particulière, justement pour ne pas tomber dans la censure. Hein. Mais qui va bénéficier de cette liberté de création? Qui va bénéficier de cette attention particulière? C'est là où on a un point d'équilibre entre des valeurs antagonistes et une volonté de faire primer la liberté de création qui me paraît légitime pour ne pas tomber dans une logique de censure. Mais on a un élément de l'algorithme qui manque, c'est... Alors, quels sont les artistes? D'où la polémique de Nathalie Heinisch qui dit « Ah bah oui, mais alors il suffit de dire qu'on est artiste pour pouvoir tout faire. »
Moi, en tant qu'artiste, c'est quelque chose...
Je
suis amenée à avoir des mises en scène de théâtre ou d'opéra très... ce qu'on appelle borderline, dans le sens Je ne sais pas si vous avez entendu la veine Europa Trash. C'est toute la mouvance des metteurs en scène plutôt allemands qui vont vers le porno, vers... Alors, je ne vais pas vous en citer. Il y a des listes. C'est-à-dire qu'en Allemagne, par exemple, hein, ça a toujours été un pays d'avant-garde. Mais même aujourd'hui, au niveau de la mise en scène, on assiste à des choses... je veux dire, il y a des nazis sur scène qui... Enfin, je ne vais pas vous employer des termes vulgaires. Je veux dire, ça ne servira à rien. Mais, je veux dire, Merkel est partie du festival de Bayreuth parce que Pete Almen, c'était je ne sais plus quelle œuvre de Wagner, il y avait des acteurs porno sur scène qui faisaient tout un tas de choses. Où est-ce que la liberté s'arrête, la censure s'arrête? En France, c'est plus conservateur, on est un peu plus gentil, même si il y a des choses qui se font. Et là, en effet, se pose la question jusqu'où on va en création artistique. Voilà. Moi, j'ai toujours en tête la phrase de François Ewald dans son livre L'État-providence, le laxisme amène au fascisme. C'est-à-dire que la permissivité, oui, il est artiste, il a droit à faire ça. Vous êtes simple étudiant en droit. Non, vous n'avez pas droit. oui, mais si l'autre a droit, pourquoi pas vous? Et je pense que ça... Voilà, c'est une question à poser, notamment dans la création.
Il faut se fonder sur les catégories, sur des éléments objectifs. Il faut se fonder sur des éléments objectifs. La distanciation, c'est un élément objectif. Hein. Mais je vais laisser parole au philosophe, pardon. Mais c'est vrai que je racontais en aparté l'affaire Patrick Poivre d'Arvor, qui avait écrit un ouvrage pas très intéressant où il racontait une jeune femme séduite par un homme mûr, évidemment c'était lui et sa maîtresse, et à cette occasion il avait complètement révélé des éléments de la vie privée de sa maîtresse, très 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 privé, et lui avait dit non, c'est pas moi, distanciation. Bon, bah, le tribunal a dit oui, c'est pas vous, mais votre personnage et son amante se retrouvent à Roland-Garros, on vous voit dans Point de vue d'Image du Monde ou je ne sais plus quel journal à Roland-Garros au même moment, vous allez à Cannes dans votre livre, il se trouve que vous étiez à Cannes avec la même personne, donc il n'y a aucune distanciation, donc boum, vous tombez sous le coup de l'atteinte à la vie privée. Donc c'est opérationnel comme critère, c'est relativement opérationnel. Si Orelsan et la Cour le dit, si Orelsan était vraiment dans ses propos, avait eu des propos misogynes, dans la vie de tous les jours, je pense pas qu'il aurait pu bénéficier. On a l'affaire Houellebecq, où Houellebecq écrit dans Plateforme, l'islam est la religion la plus con du monde. Ah, là, c'est un personnage, sauf que, bah, Houellebecq, il l'a répété. Bah, là, c'est lui, c'est plus le personnage. Donc, voilà.
Mais je pensais par rapport aux mises en scène, hein, puisque, bon, je parle de ce que je connais peut-être le mieux. J'ai deux exemples. Je travaillais avec une metteur en scène qui est plutôt de mouvance Europa Trash, Laura Scozzi, qui est chorégraphe, dans l'adaptation d'un opéra d'Offenbach, Orphée aux Enfers. À l'Opéra de Bordeaux, dans cette mise en scène qui était trash, c'est-à-dire que je jouais un rôle où on était dans une maison de vieux pour faire le vieux monde des vieux dieux de l'Olympe, et puis il y avait Jésus, Mahomet qui arrivait, qui balançait tout par terre, et donc il y avait des scènes trash, etc. Cette mise en scène, le directeur de l'Opéra de Marseille est venu voir la production et n'a pas voulu la prendre finalement. C'était programmé, hein, c'était dans toutes les programmations. Il n'a pas voulu la prendre, il a dit non, à Marseille, le public, il va pas aimer, puis Mahomet, tout ça, c'est pas possible. Dernièrement, au Festival d'Aix, le directeur, Monsieur Foucroul, est allé voir le metteur en scène en disant c'était une alors je me souviens plus l'opéra, je sais pas si c'était Carmen, bref, le metteur en scène avait voilé tout le monde et puis à un moment donné tout le monde arrivait avec des kalachnikovs sur scène, il fallait tous, il a dit non, ça il faut l'enlever parce que dans le contexte actuel il y a eu les attentats du 14 juillet terroristes, c'est pas possible. Bon. Voilà, se pose la question.
Ça, c'est l'autocensure, c'est le pire.
Oui, on parlera de l'autocensure, certainement.
Quels sont les recours des artistes, ou j'en sais rien. Enfin.
Alors, rapidement, Alain Blum.
C'est juste une réaction, parce que sur Orelsan, par exemple, c'est pas de l'autocensure, mais quelque part, lui, ce qu'il a produit derrière, il est sorti complètement de ses propos sexistes, et du coup, ça veut dire que la, même s'il y a distanciation, la pression populaire ou la pression publique fait que, à un moment donné, il y a une modification de l'artiste, quoi.
Alors, nous reviendrons sur ces questions. J'en profite aussi pour dire que c'est un café culturel, donc n'hésitez pas à vous déplacer, notamment pour aller voir l'iconographie qui vous est proposée par Oriane. Elle a apporté ça dans sa valise, donc venez au bureau, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Nous retenons l'idée qui va sûrement nous intéresser dans le débat de ce que peut être la censure, des formes diverses qu'elle a pu prendre, de peut-être un ordre moral, de l'autocensure. Bon, toutes ces questions sont tout à fait capitales, mais je voudrais d'abord laisser le point de vue philosophique de Quentin Bazin. Alors Quentin, vous êtes doctorant ici à Lyon 3, vous êtes allocataire, c'est-à-dire que vous avez une allocation doctorale, je précise qu'elle est régionale, vous êtes l'un des derniers bénéficiaires de l'allocation régionale, car c'était du temps où nous étions seulement en Rhône-Alpes. Voilà, donc c'était l'ancien temps. Et vous êtes élève de Jean-Philippe Pierron à la faculté de philosophie et à l'école doctorale de philosophie. Alors vous allez nous expliquer, parce que tout est là, en quoi consiste votre thèse, et on va vous allez nous faire comprendre pourquoi vous êtes le représentant de demain. Non pas parce que vous êtes plus jeune que la moyenne, mais oui, bah dans cette fiction, faites au mieux.
D'accord, très bien. Merci. Puis si j'y parviens pas, ce qui est probable, vous m'aiderez. Hein, voilà. Bon, très bien. Donc, comme tu l'as dit, je travaille grâce au financement de la région Rhône-Alpes, qui était quand même assez intéressée dans l'affaire, mais moi aussi, donc on s'y retrouvait. Je travaille sur l'art brut. Donc sur cette notion qui est assez problématique d'art brut, qui est née après la Seconde Guerre mondiale, dont il y a d'éminents spécialistes dans la salle, donc je vais devoir faire des répétitions désagréables pour certains et certaines. Et donc il y a une partie qui est conceptuelle, qu'est-ce que ça veut dire cet art brut, et une partie qui est plus propositionnelle, qui est, étant donné qu'on a une star qui est de temps en temps maladroitement assimilée à l'art brut, qui est le facteur cheval et son palais dans la Drôme, eh bien il y avait une idée de réunir, de faire un réseau d'art singulier. Alors faut choisir le terme: singulier, hors norme, art des marges, art cru, outsider, etc. Enfin, une des acceptions qui sont nées dans le sillage de l'art brut. Donc l'enjeu c'est de trouver pas seulement les lieux où il y avait de l'art singulier, mais de trouver une forme de médiation culturelle qui aille à cette forme d'art ou cette forme de création qui est un petit peu particulière. Particulière parce qu'elle se monte avec colère face à l'institution de l'art d'après-guerre. Alors, tu as cité un livre qui était La brutalisation dans les sociétés modernes ou quelque chose
Gérard
comme ça.
Gérard Mouchet, alors c'est les sociétés européennes, enfin, je me souviens plus du titre,
ouais, excuse-moi. C'est pas grave, c'était juste pour me
c'est la brutalisation des sociétés européennes. Ouais. Après la Première Guerre mondiale.
Ça m'a fait penser que j'essaye de voir qu'est-ce que ce serait une brutification de l'esthétique dans le 20e siècle. En fait, brutification au sens où quand Dubuffet en 45 il lance comme une sorte de définition, même s'il il dit bien qu'il ne fait aucune définition de l'art brut, ce qui complique un peu l'affaire. Il lance « L'art ne vient pas coucher dans les lits qu'on a fait pour lui ». Ce qu'il préfère, c'est l'incognito, etc. L'art ne vient pas coucher dans les lits qu'on a fait pour lui. Eh bien, le propos, il ne naît pas d'une personnalité insulaire que serait Jean Dubuffet, qui est artiste, écrivain et qui est le père entièrement fondateur de l'art brut. Mais c'est un propos qui n'est pas extrêmement original et qui naît de tout un processus assez lent du XXe, enfin qui a été commencé avant, mais qui est en réaction à un siècle assez compliqué, et où un siècle d'après-guerre et d'avant-garde, on va dire. Et que il y a un des jeux pour comprendre l'art brut, c'est de remonter à sa préhistoire. Donc on peut trouver des signes de sa préhistoire dans Dada, dans le surréalisme, dans le situationnisme, dans toutes les frictions que Dubuffet va avoir avec tout un monde autour de lui. Et donc d'essayer de ne pas faire coller l'art brut à simplement une histoire de l'art, mais à aller un petit peu plus loin et voir que c'est l'art. Donc là, la thématique d'aujourd'hui, c'est la liberté de création. C'est l'art qui, d'un coup, pendant ce siècle particulier, devient un espace de liberté. où il y a plusieurs artistes, notamment Dada, mais ensuite qui sont repris plus tard, c'est même à peu près ces mêmes paroles, où il y a une impossibilité de s'en tenir à ce qui est, une impossibilité de ne rien faire et une impossibilité de faire avec les mêmes normes, les mêmes règles esthétiques qui prévalaient auparavant. Et donc on retrouve là ce que tu mentionnais entre la querelle des anciens et des modernes, c'est-à-dire de la question de la norme esthétique et de son dépassement, comme si l'histoire de l'art marchait sur deux pieds et que souvent on la prend de manière unijambiste avec seulement la norme qui est, enfin, l'art comme exercice de conformité à la norme ou l'art comme exercice de dépassement de cette norme. Et le XXe siècle vient réinaugurer toutes ces perspectives de dépassement. Alors, je prenais aussi un petit peu la suite de ce que tu disais sur l'art dégénéré, donc cette exposition. Qui a lieu en 37 à Munich, donc qui est commanditée par Goebbels. En fait, elle jouit d'un statut assez particulier concernant l'art brut, parce qu'il y a un théoricien de l'art brut qui s'appelle Michel Thévaux, qui parle de cette exposition et qui en parle de manière assez provocante en disant que finalement les nazis ont eu un certain flair dans cette exposition, un flair négatif, mais tout de même un flair de rassembler. Pour la première fois et pour la seule fois, en fait, c'est ces productions qui sont issues de collections psychiatriques et des collections d'art d'avant-garde. Et c'est des choses qui se referont quasiment pas et qui, encore aujourd'hui, enfin, sont en débat et deviennent presque le nouveau chic. Donc, comme si pour ce théoricien-là, il y a dans le dénigrement une forme de perspicacité qu'on ne retrouve pas dans l'éloge. Enfin, un travail du négatif.
Pour préciser ce que voulait Goebbels au moment de l'exposition de Munich, c'était mettre justement, prouver par l'exemple, que l'art qu'ils appelaient dégénéré était à peu près identique à l'art psychiatrique, à l'art des fous, tel qu'on pouvait. Donc, qu'on était effectivement dans la dégénérescence.
Oui, et que les infractions, en fait, les infractions au vivant qui seraient la dégénérescence et les psychoses, eh bien, on peut les mettre tout à fait en face des infractions aux normes esthétiques qui sont présentes dans les avant-gardes. Donc, cette question de la norme, en fait, enfin, je pense que la question de la liberté de la création, elle peut se faire que dans l'examen attentif de ces négociations qu'il y a avec les normes esthétiques. Voilà, qu'est-ce que je peux raconter
Le rapport à, au fond, art brut psychiatrie.
Oui, alors, oui, puisque donc, l'art brut naît en partie d'un ouvrage que découvre Dubuffet, qui s'appelle Expression de la folie, qui est un ouvrage de Hans Prinzhorn qui avait collectionné à Heidelberg, donc Heidelberg, le même Heidelberg qui va donner des toiles pour l'exposition de l'art dégénéré, avait compilé et essayé de faire une théorie sur les expressions déviantes de personnes qui ne sont donc éminemment pas artistes. Et ce livre va circuler dans les milieux surréalistes, va circuler auprès du Buffet, et va être une source d'inspiration assez importante pour l'art brut. En fait, ce que j'essaye d'étudier aussi, c'est que à peu près à la même période où Dubuffet expose sa théorie sur l'art brut, il y a un mouvement que certains et certaines connaissent peut-être, qui est le mouvement de la psychothérapie institutionnelle en France. Donc il y a plusieurs courants qui se montent face à une psychiatrie qui est déshumanisante. Il y a l'antipsychiatrie et en France sa variante s'appelle la psychothérapie institutionnelle, avec des gens comme Jean Houry, Lucien Bonafé. Et ces personnes sont elles aussi en contact avec Dubuffet, ou Dubuffet est en contact avec la psychothérapie institutionnelle, que je vous résume assez rapidement comme ça. C'est avant d'estimer être en mesure de soigner des psychotiques, il faut pouvoir soigner l'institution qui elle-même est malade. Donc ce qui est à soigner, c'est les murs de l'hôpital, c'est les relations soignant-soignées, c'est le complexe de la blouse blanche, c'est la négation du patient, dont Lacan se... s'amusera en disant que le soignant, c'est toujours le soi niant le malade. Et il y a tout un tas de mesures à prendre qui sont des asepsies, au sens clinique du terme, pour Uri. Il faut aseptiser un petit peu notre monde avant d'estimer pouvoir réaliser du soin.
Ce sont des asepsies.
Oui, ce sont des asepsies, exactement. L'intérêt quand on fait les liens entre psychiatrie et le monde de l'art, c'est que tout d'un coup on découvre, alors peut-être que des fois c'est un peu maladroit, mais on découvre que les lieux se ressemblent, c'est-à-dire que le lieu de l'hôpital psychiatrique ressemble par certains aspects au lieu du musée. C'est-à-dire qu'il y a une contraction spatiale et une dilatation du temps. C'est-à-dire qu'une contraction spatiale, c'est qu'on met tous les fous ensemble, on met toutes les œuvres d'art ensemble. Et une dilatation temporelle, c'est qu'on abolit le quotidien. L'œuvre d'art, elle ne vit plus. Un quotidien d'œuvre d'art, je ne sais pas ce que ce serait, on pourrait en parler, mais elle vit une répétition, une succession qui pourra avoir des liens avec le quotidien en institution psychiatrique. Et puis, il y a un philosophe lyonnais, donc on peut lui rendre un tout petit peu hommage, qui s'est intéressé à ces liens entre esthétique et psychiatrie, et qui disait que ces deux lieux-là sont des lieux aujourd'hui. Il s'appelle Henri Maldinet, il est mort il n'y a pas très très longtemps, donc il parle d'une époque qui est encore l'aujourd'hui, je ne suis pas vraiment dans le demain, mais presque. Il dit qu'une des spécificités de ces lieux, c'est qu'on y échoue le plus souvent à faire des rencontres. On a du mal à rencontrer. Donc pour lui, c'est des rencontres au sens fort, des rencontres authentiques. On a du mal à rencontrer un psychotique et on a du mal à rencontrer une œuvre d'art parce que, eh ben justement, ce problème de l'asepsie, ce problème des murs, ce problème de l'institution. Et c'est ça qui est un petit peu en question là-dedans. Donc voilà. Moi, j'imagine qu'il y a un travail à faire en relisant Dubuffet à partir de la psychothérapie institutionnelle et que Dubuffet avait une posture anti-institutionnelle, mais au fond, ce qui nous attend aujourd'hui, ce qu'on pourrait essayer de s'atteler à faire, c'est de soigner l'institution, y compris l'institution esthétique. Voilà. Il y avait des choses à dire aussi sur le critère de la distanciation, on pourra y revenir plus tard. Et puis sur la censure, je pense, mais ça c'est des choses qui vont revenir, donc on peut passer à la parole. Donc
votre thèse n'est pas au sens strict une thèse d'esthétique, c'est philosophie politique, c'est est-ce qu'on pourrait la qualifier, puisqu'il faut qualifier.
S'il faut qualifier, ce qui est un peu détestable, mais il faut quand même le faire. Les liens, ils sont faits avec la politique au sens où moi, je connais pas la définition de l'art non plus, sinon tout le monde sera au courant. Mais je crois que les œuvres d'art, elles se reconnaissent à leur capacité de transformer et de transformer les personnes qui les regardent, par exemple. Et donc, il y a cette idée qu'au bout de, au bout d'une perception esthétique, eh ben, il y a de nouvelles manières d'agir qui peuvent être là, qui peuvent être débloquées. Bon, ça paraît un peu vaporeux dit comme ça, mais c'est pour dire que elle n'est pas enfermée dans l'esthétique. Enfin, les théories, elles ne sont pas enfermées dans l'esthétique. Ça percole avec le monde tout à fait ordinaire, des habitudes quotidiennes qui peuvent rejoindre une forme de militantisme, qui peuvent rejoindre une attention à des dominations, qui peuvent rejoindre enfin, tout un tas d'aspects du champ social.
Merci beaucoup. Alors, donc, trois points de vue très, très différents sur, autour d'une question très ouverte. Vous disiez l'art a deux jambes, même si on croit qu'il est unijambiste. Donc, en fait, il avance pas à pas. Et donc, il y a toujours un pas qui est en avance sur l'autre. Ça, c'est celui de l'avant-garde, disons. Est-ce que toute avant-garde est destinée à être le prochain académisme? Est-ce que l'histoire ne se trompe jamais? Est-ce que l'histoire de l'art qui prend du recul à chaque salon, on peut dire, à chaque époque de salon, il y a un salon des refusés, et c'est celui-là que l'histoire de l'art va retenir. On se souvient beaucoup plus de Manet, Degas, Monet, que de ceux qui étaient dans le salon officiel. Est-ce que c'est parce qu'ils ont été refusés, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'ils sont en avance et qu'ils sont meilleurs que les autres ? C'est une question évidemment difficile. Cela, mais ça vaut aussi pour les tous les recalés, quelle que soit la raison de ce recalage. Hein, l'art dégénéré, par exemple, ou la biennale hors norme à côté de la biennale d'art contemporain. Voilà, qui est sûrement en avance d'un pas et demi. Qui Goebbels avait le nez creux, vous le laissiez entendre, et il avait commencé une collection d'art interdit, qu'il avait décrété interdit. Ça devait faire monter les prix, probablement, oui. Donc est-ce que...
Non, sur cette question, c'est clair que le... Première réponse du juriste, c'est que le droit s'est complètement constitué là-dessus. C'est-à-dire que le droit est plus particulièrement le droit d'auteur, c'est le droit qui protège les artistes, les auteurs. C'est complètement construit sur cette idée de l'artiste maudit du 19e qui crée dans sa chambre, dans sa mansarde, complètement miséreux et qui rencontrera le succès à sa mort. Et donc il y a tout un système d'institutions juridiques qui... a été mis en place pour protéger cela, notamment le droit de suite, hein, le droit de suite qui a cette fonction et qui est parti sur l'Angélus de Millet qui avait été vendu par rien du tout pour Millet et qui après avait fait des scores absolument incroyables et les héritiers crevaient de faim. Bon, donc ça c'est l'image d'Épinal que le droit a enregistrée. Aujourd'hui, je ne sais pas, alors là c'est pas le juriste qui parle, hein, je ne suis pas sûr qu'on a des marchés de l'art contemporain qui sont tellement rapides, tellement mondialisés, tellement globalisés. Oui, on verra sans doute que Kuhn c'est un artiste pompier dans quelques années, mais je ne suis pas sûr que ceux qu'on n'a pas vus aujourd'hui, on ait le temps de les revoir plus tard. Voilà, et peut-être la nécessité pour le droit de s'adapter par rapport à ça, même si de mon point de vue, le droit de suite reste pertinent parce qu'il y a d'autres personnes, et l'art brut est un bon exemple justement, qui sont spoliés de ce grand festin qu'est l'art contemporain, et le droit de suite est un moyen pour leur permettre d'être mieux associés à ça. Mais voilà, très rapidement...
Vous n'êtes pas obligé d'avoir un avis. Hein.
Non, c'est que j'adore Jeff Koons, dans le sens où quand nous, on galère pour monter cet opéra avec 40 personnes qu'on a montées entre la France, l'Allemagne et la Suisse, et que oui, on voit comme le festin de l'art contemporain, où on voudrait juste avoir l'oreille du chien, ça nous servirait pendant 15 ans à payer les artistes. Voilà.
Oui, juste. Mais bon, nous ne faisons pas le marché. C'est le marché, il est fou comme je suppose.
On veut de la censure.
Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas que le marché de l'art, hein, parce que si vous prenez les sacs Vuitton, c'est vraiment. Moi, je me suis énervé sur ces sacs, hein, mais. Je le répète pour mes étudiants parce qu'ils m'ont vu m'énerver un matin. J'arrive, j'étais pas content. J'ai même écrit un petit propos pour m'énerver là-dessus dans ma petite revue. Mais on voit cette réunion où finalement les icônes du passé qui eux étaient des refusés vont être récupérées par la caution artistique de Koons avec une fonction complètement économique qui est celle de Vuitton. Et derrière, le ministère qui accepte parce qu'on a dû déverser des subsides au Louvre parce qu'il y avait une reproduction de la Joconde dans l'histoire. Bon.
Est-ce que l'histoire de l'art n'a pas pris une vitesse supersonique avec les moyens d'aujourd'hui. Est-ce que le public, au fond, n'est pas devenu expert, qu'on le veuille ou non? Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas un vecteur de modification de l'histoire? Est-ce que ce ne sont pas les réseaux sociaux qui créent interdiction, autorisation, le Tcherniakov, les Carmélites de Tcherniakov, pour défendre les ayants droit qui s'estiment spoliés dans le droit moral de leurs ancêtres, hein, ou de leurs ancêtres, c'est au fond objectif, dans une certaine mesure, mais ça contrevient à la liberté de création du metteur en scène Tcherniakov. On a l'impression qu'avec cette rapidité médiatique supersonique, on est en permanence en tension entre comme l'amendement américain, la liberté maximum de création, etc. Et puis, à tout moment, quelque chose qui vient la contrarier parce que on est contre tel lobby ou contre voilà. Et le public réagit beaucoup plus vite que du temps du salon des refusés et on a l'impression que c'est ça qui accélère. Vous parliez, Oriane, d'un programmateur qui déprogramme au motif qu'il imagine les réactions sur son public d'un spectacle. Parce qu'il y a des mitraillettes sur scène, parce que... Mais enfin, et si on prenait le public pour ce qu'il est, c'est-à-dire un public adulte...
Mais qu'est-ce que le public et pour qui on crée ? Enfin, je veux dire, il y a aussi la notion de public qui prend la parole au nom de quel public, c'est-à-dire le directeur de théâtre, le metteur en scène, est-ce que c'est toujours la question
la sociologue, voilà. qui a une tribune.
Après, j'allais dire moi, qui suis dans le milieu de l'opéra, j'allais dire le nombre de fois où je présente donc Amok, cet opéra qui a été créé en 2016 à l'Opéra de Reims et en Suisse. Aujourd'hui, j'appelle des directeurs XY d'opéra qui me disent oui, c'est gentil, mais nous, il faut qu'on remplisse. Donc aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle du grand répertoire. Donc ça veut dire que vous allez revoir une énième Traviata, dans la mise en scène Tchernakov certainement, mais ça s'appelle Traviata. Et donc la création aujourd'hui, la création vraiment, c'est-à-dire un livret, une mise en scène, un compositeur, et je parle pas la création Amok, cet opéra que j'ai créé, c'est pas avec musique électronique, si c'est de l'opéra traditionnel avec des voix et des instruments tout à fait, il y a aucune technologie, mais il y a une frilosité en tout cas, en musique, je parle de l'opéra et de ce milieu dans lequel j'évolue, on va froisser le public, ça va pas remplir la salle, il y a des questions économiques et budgétaires importantes. Voilà. Donc c'est une autocensure c'est une censure économique qui se met en place aujourd'hui et à la fois une censure, le directeur d'opéra qui dit non, ça c'est trop polémique, je le veux pas sur scène dans mon théâtre parce que sinon je vais avoir, il y a aussi des lobbies, hein, il faut le dire, hein. Tout est question aussi de lobby, même dans l'art. Hein.
Je propose que le débat s'organise et se désorganise par questions-réponses. Madame.
Alors, j'ai un certain nombre de questions à vous poser. Cette question d'abord de la censure des œuvres, j'aimerais savoir si elle a augmenté ou pas, c'est-à-dire les attaques contre les artistes pour des raisons indiquées de dérapage par rapport à des textes de loi. Est-ce que c'est en train d'augmenter ? Parce que, par exemple, on constate dans le milieu théâtral que cette chose-là se fait du côté contre la médiation, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, il y a eu récemment des plaintes de parents par rapport à des spectacles auxquels on avait emmené des enfants qui étaient réputés pornographiques, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas l'œuvre qui était attaquée, mais la médiation. Donc est-ce que nous sommes dans un système où cette attaque contre la médiation et les œuvres est en train de se développer ? C'est ma première question, mais je n'ai pas fini. Alors, deuxième chose, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'évolution, c'est-à-dire qu'on est passé de l'attaque contre l'œuvre parce que l'œuvre était réputée subversive comme une atteinte à la loi, à une autre forme de censure beaucoup plus pernicieuse, qui est une censure plus morale que juridique. Et quand on voit des directeurs d'opéra ou de théâtre interdire un certain nombre d'œuvres, c'est plus par une anticipation de réaction de spectateurs qu'on anticipe et finalement c'est peut-être une marque d'un phénomène de généralisation d'une sorte de peur de la réaction et d'une recherche du consensus. Et ma troisième remarque, c'est par rapport à Tcherniakov. Je suis toujours un petit peu...
Les Carmélites.
Et des Carmélites. J'ai le DVD. Je trouve que cette mise en scène est une véritable merveille. Et que, certes, ça ne respecte pas ce qu'a voulu Poulenc, mais on s'en moque, Poulenc est mort depuis longtemps. Et je me demande si, au fond, ce qu'il ne faudrait pas supprimer, c'est les ayants droit. C'est-à-dire qu'un auteur ou un artiste ait des droits sur sa propre production. Je peux l'entendre, que des gens qui viennent à la génération suivante ou la génération encore suivante s'autorisent à avoir des droits sur l'œuvre. Aujourd'hui, à l'heure de la googlisation, je pense qu'il faudrait quand même arrêter avec ça et qu'il faudrait changer la loi. Voilà.
Donc des questions plutôt pour le juriste, dont une drastique à la fin.
Pardon ?
La médiation.
C'est-à-dire, les médiations, c'est les enseignants ou les chargés des publics qui, finalement, servent d'intermédiaire entre le récepteur qui est l'enfant ou l'adolescent et l'œuvre. Vous voyez ?
Alors, sur la première question, oui, je pense qu'il y a une sensibilité qui est bien accrue aujourd'hui. Il n'y a pas d'études empiriques qui permettent d'y répondre. Ce qui est certain, moi, j'avais regardé de manière assez sérieuse les contentieux entre artistes. Il n'y en avait pas. Et il y avait une forme de coutume de dire, on se reprend mutuellement. Et puis, depuis 10, 15, 20 ans, on a de plus en plus de contentieux. Aux États-Unis, il y a eu Koons, qui est allé deux fois devant les tribunaux. Il y a Richard Prince. Chez nous, il y a Classen. Pas cette biennale, mais la biennale d'avant, il y avait deux installations qui étaient interdites pour des raisons juridiques. Donc, oui, il y a une sensibilité qui est accrue. Très clairement, un des très grands auteur juriste du XXe siècle, écrivait sur ces questions dans les années 50, l'oubli. On met de côté, on oublie toutes ces questions. Aujourd'hui, c'est plus possible, on ne veut pas oublier. Mais tout simplement parce que la société s'est totalement judiciarisée, donc il n'y a pas de raison que l'art ne se judiciarise pas. Ce qu'on voit quand même dans les contentieux entre artistes, c'est que ce sont des artistes qui ne sont pas tout à fait du même monde. C'est-à-dire que vous avez d'un côté, dans l'affaire Richard Prince contre Cariou, qui est un ethnographe, un photographe, d'un côté un photographe un peu documentaire, et de l'autre, un artiste de la grande scène globalisée. Classen, aussi, c'est un artiste très connu avec un marché, et derrière il reprend la photo d'un photographe de pub qui se sent un peu privé de ce festin. Donc oui, il y a une judiciarisation, ça c'est certain. Je vais tout de suite à la troisième question. J'entends d'autant plus que aujourd'hui il est difficile. Vous avez tous lu les Panama ou les Paradise Papers avec cette affaire rocambolesque de la succession Ravel. Bien sûr. Alors on se dit tous, mais il faudrait supprimer ça. Oui, en même temps, la propriété que vous avez peut-être sur votre appartement, madame, elle perdura, cette propriété à votre décès. Elle perdurera et elle perdurera éternellement. Et vous pourrez le donner, vous aurez des impôts à payer, mais vous pourrez le donner. Alors pourquoi celui qui a créé aussi une œuvre, enfin aussi un objet qui est protégé par une propriété, lui n'aurait pas droit à ça? Alors on a considéré que c'était 70 ans post-mortem, c'est peut-être trop. Mais c'est séparé, madame. C'est séparé puisque le droit moral est perpétuel. Le droit moral est perpétuel et c'est bien pour ça que les héritiers de Hugo ont pu s'opposer aux suites données aux misérables d'Hugo. Les suites du misérable. Parce que, et c'est peut-être pas aberrant, moi honnêtement, je trouverais pas ça aberrant d'imaginer que des héritiers de Monet disent non, j'ai pas envie que les nymphéas soient sur un sac avec un chien derrière et J.K. et LV. Pourquoi pas? Bon, donc, oui, alors il faut le manier avec attention. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que, et vous parliez de Google, s'il y a moins de droits et s'il y a moins de protection pour les artistes, ça sert un intérêt. C'est celui de Google. C'est celui de Google parce que ça va circuler d'autant plus sur Internet. Et par rapport à une réflexion que vous faisiez tout à l'heure, qu'est-ce que ça a changé l'Internet ? C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est, entre guillemets, créateur. Tout le monde fait ses mash-ups, tout le monde fait ses... tout le monde fait ses petits collages sur Internet parce que c'est commode. Et tout le monde veut prétendre à la liberté de création. Et Google est à fond derrière eux. Parce que s'ils peuvent envoyer leur petit collage éphémère, peu intéressant, mais dont ils, sans très largement, ben, ça fera plus de flux, ça fera plus de circulation, ça fera plus d'argent pour Google. Voilà, donc moi je suis pas contre protéger les auteurs. Je pense que même si vous considérez, et je l'ai pas vu parce que j'ai pas eu la chance d'avoir accès à ce DVD, donc je serais content de le voir. et j'entends que c'est super, très bien, mais il a construit sur l'œuvre de quelqu'un d'autre. Il a construit sur l'œuvre de quelqu'un d'autre. Donc à partir du moment où il construit sur l'œuvre de quelqu'un d'autre, il n'est pas aberrant qu'il respecte. Alors après, on peut avoir un propos, à mon sens, plus. Je vais laisser la parole, pardon. Est-ce que vraiment ça n'était pas, et là moi j'ai pas compétence pour parler, est-ce que vraiment il ne respectait pas, c'est ce qu'avait dit la cour d'appel, et je vais pas rentrer dans un débat technique, mais que au fond le thème de l'espérance et de la rédemption, il le respectait tout à fait. Là moi je m'efface. C'est un débat d'experts spécialistes de l'œuvre de Bernanos, de Poulenc, la manière dont c'est mis en scène. Si effectivement derrière il n'y a pas une dénaturation, et si par le fait que les carmélites ne meurent pas, il arrive à transcender et à mettre dans la réalité contemporaine les thèmes fondamentaux, il n'y a pas de dénaturation. Et là, très bien. Mais s'il dénature complètement, et si on abandonne ça, on peut tomber dans des utilisations mercantiles, dans des... Voilà, il faut quand même penser que le droit moral permet de lutter contre une mercantilisation de la culture. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas aberrant. Voilà une réponse trop rapide. Trop long, plutôt.
Merci beaucoup. Mais très stimulante. On entend le propos et pas entièrement convaincu non plus, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, dans ce cas-là, à quoi sert le metteur en scène si son œuvre est seulement de reproduire éternellement la même chose pour respecter les ayants droit. Vous voyez ? Donc, où est sa marge de manœuvre, lui aussi ? Il y a quelques ayants droit sur quelques œuvres qui sont hyper pénibles. Donc, Godot, c'est Godot. Et c'est comme ça. Et on va voir en attendant Godot. Et quand on l'a vu une fois, huit fois, quinze fois, c'est le même. On a changé les acteurs.
Godot, vous avez deux jurisprudences sur Godot. Parce que Colline Serrois a voulu monter Godot avec des femmes à la place des hommes. Okay ? En France, c'est interdit. Aux Pays-Bas, ça n'a pas été interdit. La vraie question, c'est est-ce qu'on dénature le sens de Godot si on met des femmes à la place des hommes ? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Dans les années 70, peut-être. Aujourd'hui, peut-être pas. Je sais pas. Mais oui, le juriste, là, il a... et nous, on fixe des catégories, mais après, c'est aux gens de l'art de venir nous aider pour qu'on puisse dire quelle est la limite du metteur en scène. Il doit arriver à transcender effectivement l'œuvre en créant quelque chose de nouveau tout en respectant la substance. Bon, bah, s'il la dénature, il n'en respecte pas la substance. S'il veut dénaturer l'œuvre qu'il veut mettre en scène, bah, il en choisit une autre, ou il crée lui-même, ou voilà. Bon, mais moi, je suis juriste légaliste, hein, vous comprenez bien, donc mon propos est... mais j'entends que l'artiste n'a pas le même propos, bien évidemment.
Une autre question ? Alors, en attendant que ça vienne, il y a cette question de la censure qui est sous-jacente, au fond, à tous vos propos. Bon, la censure, est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est fondé sur du droit ? A priori, oui. Hein, vous parliez d'interdiction. On interdit à Colin Serrault de faire un Godot où on remplacerait les personnages masculins par des personnages féminins. On l'interdit, donc je pense que c'est un acte judiciaire. Hein, voilà. Bon. Donc il y a une loi.
Oui, oui, il y a plein d'interdits. C'est plein de lois qui vont interdire certains.
Alors, est-ce que c'est une nouvelle manière de considérer que l'ordre moral s'exprime de cette façon-là ? Est-ce que quelque part, c'est toujours l'ordre moral ?
Alors, du point de vue technique, il n'y a plus d'atteinte aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Aujourd'hui, et c'est d'autres choses dont on n'a pas parlé, aujourd'hui, maintenant, ça a un peu évolué avec la crispation sur les identités religieuses, mais le point dans les années 90-2000 qui était le plus clivant, c'était l'enfant. Et on a un texte pénal qui interdit quoi ? Qui interdit, en fait, la pornographie n'est pas interdite, hein, bien évidemment. Ce qui est interdit, c'est soit que l'image pornographique puisse être reçue par un mineur, soit que le mineur soit dans l'image pornographique. Et donc, on a d'une certaine manière habillé notre ordre moral avec les couleurs de l'enfant. Et avec des décisions qui sont étonnantes, un manga qui a été interdit parce que on trouvait que le dessin du personnage n'avait peut-être pas 18 ans. Et donc, j'ai pas vu le manga, j'ai juste vu la décision. Voilà. Donc, on va interdire un livre papier, qui n'est pas des photos de vraies personnes, hein, évidemment, parce que le dessin, le caractère graphique, était mineur, et donc ça tombe sous le coup de la loi pénale. Donc là, oui, on a. Mais en même temps, ça fait partie enfin, l'enfant et la sexualité, et moi, je ne porte pas de jugement par rapport à ça, mais c'est le dernier tabou. Si vous prenez. Et là, il y a une histoire amusante sur la photo de Brookfield, que vous voyez dans sa salle de bain, elle a 12 ans, elle est dans une position tout à fait lascive de femme, alors qu'elle a 12 ans, enfin, la photo est extrêmement troublante. Cette photo a été reprise par Richard Prince, qui l'a vendue. Cette photo, dans les années 70, était acceptable. Aujourd'hui, cette photo, elle n'est plus acceptable. Et lorsque il y a eu l'exposition sur l'interdit qui a eu lieu au Palais de l'Élysée à Lausanne, au musée de la photographie, cette photo a choqué. Et ce qui a choqué, c'était toujours la représentation de l'enfant et la nudité et la sexualité. Donc là, oui, il y a de ce point de vue-là, oui. Et aujourd'hui, maintenant, les identités religieuses, bien évidemment, l'affaire Anish Kapoor, oui, bien évidemment.
Je voudrais dire que simplement que, entre nous, là, dans les pays de tradition démocratique, on a encore la chance de discuter, de savoir où est le niveau de liberté et de censure. Parce que, dans la plupart des pays du monde, on pose pas la question, c'est interdit, c'est tout, hein.
Oui, hein, on a des questionnements de riches, voilà.
Et puis, il y a un autre problème aussi, c'est la position du créateur indépendant et partisan pour le bien ou pour l'erreur. Il y a un exemple, c'est le portrait de la mort de Staline, vous savez, qui avait fait. Machin,
oui.
Oui, le grand. Le grand peintre, comment j'ai plus son nom en tête.
Moi non plus. Sinon, je vous aiderai.
À la mort de Staline, il était membre du parti. Et il a fait un portrait de Staline qui n'a pas plu au parti et qu'il a été ouvertement critiqué.
Oui. Bien sûr, là, on est dans le cadre standard totalitarisme et donc d'un art officiel, d'un art déviant. Et dès qu'on n'est pas officiel, on est déviant. C'est simple et ça marche. Voilà. Donc là, nous sommes dans une société démocratique où tout est plus flou. Y avait cette question que vous avez évoquée l'un ou l'autre. Du brouillage, hein, je crois que c'est vous, Oriane, sur le brouillage entre le. Non, c'est vous, Edouard, entre le personnage et l'auteur, entre l'œuvre et la vie. Bon, je crois que justement la vitesse de réaction produit encore davantage ce brouillage. C'est-à-dire qu'on réagit avant même d'avoir vu. On a des lobbies qui sont prêts à faire une émeute devant le théâtre ou devant le musée pour empêcher le public d'entrer avant même que qui que ce soit ait pu se rendre compte de ce que c'était. Parce qu'on se fait une idée préconçue de l'œuvre elle-même, hein, et on va condamner une œuvre au motif que on y entend, c'est ce que vous disiez, des propos pédophiles ou des propos racistes, antisémites, etc., sans faire la part entre sans du tout questionner le propos de l'artiste lui-même.
Moi, je racontais à ce propos, c'était au Festival d'Avignon, il y avait une pièce de Cassimi qui s'appelait Dans la peau de Mohamed Merah. Et du coup, il y a eu, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a eu immédiatement un tollé de gens qui n'ont pas vu la pièce et qui ont jeté à la fois le metteur en scène et la personne qui jouait.
Simplement au vu du titre.
Au vu du titre. Ouais. Et nous, enfin, en ce qui concerne la LICRA, on est allé voir la pièce, on a discuté avec l'auteur, avec le directeur du théâtre. Et quelque part, on a fait un débat et la pièce, l'œuvre était tout à fait... il y avait la distanciation. Pour le
voilà, exactement.
Et du coup, et ça rejoint totalement vos propos. Aujourd'hui, on est dans une période où, effectivement, il y a la réaction immédiate, sans avoir vu l'œuvre, et qui, à un moment donné, la jette aux orties.
Voilà, bah, le buzz de la semaine, c'est Berlin, avec une exposition qui est le musée des martyrs. Voilà. Donc personne ne l'a vue, je suppose, parmi nous, mais elle va sûrement être interdite, parce que parmi les martyrs qui sont présentés, avec Socrate et Jeanne d'Arc, il y a des martyrs islamistes. Hein, un des terroristes du Bataclan, et donc je crois qu'on n'aura pas l'occasion de la voir. Ça va sûrement être interdit par la pression et la vindicte publique, alors que si ça se trouve, le propos est tolérable, voyez.
J'ai lu l'article et effectivement, même les auteurs de l'exposition ont été étonnés. En fait, ils n'imaginaient pas, ils n'avaient pas pensé un seul instant blessé en mettant une photographie d'un des terroristes du Bataclan. Voilà. Bon, moi j'avoue que si un de mes enfants était ou un membre de ma famille était décédé au Bataclan, j'avoue que j'aurais pas envie qu'on affiche la photo de celui qui l'a assassiné, quoi. Moi j'avoue que j'aurais réagi. Pour moi c'est approprié, mais encore c'est une histoire de goût personnel. En fait, ce qui a gêné les gens, c'est pas le fait qu'on affiche la photo à la limite du terroriste, c'est le fait qu'on le présente comme un martyr. C'est-à-dire qu'en fait, on le compare avec des gens comme Martin Luther King. Donc, il y a aucune comparaison possible, quoi.
Mais le terme de martyr est dans le dictionnaire.
Ouais.
C'est-à-dire que, comme disait Laurent Gervereau sur le bouquin que là je vous ai fait passer, le siècle de la manipulation par l'image, à la fin, dans la conclusion, il dit que la problématique aujourd'hui des images, c'est qu'elles vous arrivent dans la face, et par rapport, par exemple, à ce débat de martyr dans ce musée berlinois, sans la légende. C'est-à-dire qu'elle vous arrive et que chacun en fait ce qu'il veut. Oui, mais cette exposition à Berlin, certainement, pourquoi il y a ce martyr à côté d'autres martyrs, c'est que ce martyr, dans la civilisation, pour des gens, c'est un martyr et c'est une réalité.
Je dirais même qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les martyrs, ce sont ceux-là. Eux seuls s'auto-proclament martyrs.
Donc, voilà ce que...
Les autres sont des victimes, etc., mais, ou sont des condamnés à mort, à mon avis...
Ça le même. Ça
le Socrate, pas, qui est dans la, qui est dans le musée, voilà, aussi, n'est pas un martyr. C'est un condamné à mort.
Voilà. Ça le met pas sur le même plan que Martin Luther King. C'est la lecture qu'on en fait. C'est la légende que les gens du musée, comme disait tout à l'heure l'intervenante, la médiation. C'est-à-dire qu'en effet, que quand on arrive, et moi, en tant que, j'étais professeur en Seine-Saint-Denis, et je voulais pas, enfin, je vous le dis vraiment, l'expérience personnelle que j'ai eue, c'est que, une seule fois ça m'est arrivé, je n'ai pas vu la chose avant, enfin la chose que j'ai diffusée en classe, je ne l'ai pas vue avant de la diffuser devant mes élèves. Et ça a été une erreur. C'est-à-dire que la médiation, elle sert à ça. C'est-à-dire que je n'amènerai jamais mes élèves voir une mise en scène d'opéra si je ne l'ai pas vue avant. Parce qu'aujourd'hui, enfin, il y a de l'opatrage, enfin, je veux dire, les mises en scène, il peut y avoir de la pornographie, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des choses choquantes, et que le viol psychologique, c'est une réalité. C'est-à-dire que l'image... Je veux dire, moi, je vous dis vraiment tout ça d'une façon vraiment bête, mais j'étais en CE1, on avait notre petite bibliothèque au fond de la classe, il n'y avait pas toute cette déferlement d'images pornographiques quand vous sortez dans la rue, que vous voyez sur les kiosques, Playboy, avec, enfin bref, et on allait voir dans les livres qu'il y avait dans la petite bibliothèque si Poulot à la piscine, il n'y avait pas le dessinateur qui avait oublié un slip sur le petit garçon dans le livre. C'est-à-dire que il y avait pas, on n'avait pas des images qui nous arrivaient comme ça, dès qu'on clique sur Google, bam, on a des images pornographiques. Et là, oui, les légendes ont disparu, c'est-à-dire que ces images nous arrivent en pleine face. Ça banalise le mal comme le sexe, comme plein de choses. Et elles sont pas légendées. Et je pense que les polémiques aujourd'hui par rapport aux martyrs, c'est que la photo de ce terroriste au Bataclan, mais tout d'un coup les gens voient cette photo, elle est pas légendée, elle sort de n'importe où, mais qu'est-ce qu'elle fait dans ce musée à côté de Martin Luther King, alors que réellement c'est une question essentielle de se poser la question que oui, c'est un martyr pour certaines personnes et que c'est bien de se la poser.
Ça présente des points de vue et au fond...
Pour la démocratie, c'est même essentiel.
Oui.
Parce que c'est une réalité. Cette photo, elle existe. Elle est diffusée en Moyen-Orient. Elle est diffusée dans certains groupes.
J'ai pas d'avis définitif, mais par exemple, forcer le trait sur la martyrologie quand elle sert à décimer nombre de personnes, on peut se poser la question quand même. Enfin, je veux dire, quand... Oui, mais du coup...
C'est-à-dire qu'il faut montrer le danger de la martyrologie.
C'est ça.
Enfin, je pense qu'en effet, et c'est là, c'est pour ça que ce qui est important, c'est le discours qu'on tient par rapport à ces images. Attention, vous voyez, de diffuser ces images, ça veut dire que sur la planète, cette personne va être idolâtrée. C'est tout l'enjeu, par exemple, des sépultures des dictateurs. Pourquoi on n'a pas autorisé de sépultures pour Hitler, pour
Ben Laden,
etc. Voilà.
Alors, je voulais. Je reviens un petit peu avant sur la vitesse de réaction, justement. Donc, ça remarche un petit peu là-dessus, parce que cette soirée, elle a été faite, si je me trompe, un petit peu justement en réaction de l'exposition de Marco, qui a eu lieu ici, où un groupuscule l'avait qualifié d'art dégénéré. Donc, c'était une exposition de la Biennale hors norme. On a tenu à pas réagir. On n'a pas du tout réagi sur les propos, parce qu'on ne réagit jamais sur les propos qui viennent qualifier la Biennale de tout un tas de choses. La Biennale hors norme s'appuie sur l'art brut pour regarder en s'appuyant sur tout un tas d'autres arts, hein, c'est-à-dire que pour questionner un petit peu tout un tas de points. Là, cette année, on avait justement fait... Il y a eu un débat ici. En s'appuyant sur l'art brut, on avait pris un artiste contemporain chinois qui travaille sur le génome. Et voilà. Donc, il a transformé des coloquintes. Pour l'instant, c'est pas très grave. Mais ce qu'il a envie, c'est de nous coller des ailes dans le dos. Est-ce que un artiste a le droit de coller des ailes dans le dos? Est-ce que moi, aujourd'hui, en tant qu'artiste, je suis artiste, est-ce que moi, j'ai envie de faire une grosse installation où il y aurait d'un côté des intervenants, de l'autre côté des gens qui écoutent, mais ce que j'aimerais, c'est qu'ils soient tous lobotomisés, et puis ça ferait une jolie performance. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Qui décide, tout à l'heure, vous disiez, tout le monde tripotait sur Internet, tripotait des images et les balançait? Dire, tout le monde. Si la personne se décrète artiste, et qui c'est qui va dire que c'est un artiste, est-ce qu'on peut plus l'attaquer parce qu'il a dit qu'il est artiste? Est-ce que Li Shen peut mettre des ailes dans le dos parce qu'il a dit qu'il était artiste? Voilà, c'est une des questions.
Non, moi c'est bien pour ça que justement, comme je crois que ce qualificatif d'artiste est difficile à trouver, je suis plus pour des critères tels que la distanciation, comme je vous l'ai dit. En lien avec l'hypothèse que vous émettez, il y avait déjà l'installation très forte à la Biennale du pavillon allemand, hein, qui était dure. Mais au-delà de ça, il y a Wilm Delvoye qui travaille, qui au début a commencé sur les tatouages de cochons, et qui après s'est mis à tatouer un homme avec sa création. Hein, donc sa création était le tatouage. Sauf que le contrat était assez particulier. Donc le contrat que a pu acquérir le collectionneur était le suivant. Le collectionneur avait le droit à 2-3 jours d'exposition du support. Le support, c'est l'homme qui s'est fait tatouer. Et le contrat prévoit aussi que à la mort du support, parce que je ne parle plus d'un homme, je parle du support qui est accessoirisé par l'œuvre qui est incorporée en lui, il pourra récupérer la peau et tanner la peau. Bon, on peut le faire, mais en tout cas en France, si l'artiste vient dit j'aimerais peut-être me délier du contrat, on lui dira oui, vous inquiétez pas, vous pouvez vous délier de ce contrat, et on n'aura pas besoin de refaire le marchand de Venise pour arriver à le libérer. Donc non, et bien évidemment, les interdits perdurent. Ce que dit simplement le droit, c'est qu'il faut une attention particulière à la création. Il faut accorder une attention particulière à la création pour éviter justement ces pratiques de censure. Et peut-être aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé, pour encourager ceux qui ne veulent pas céder à l'autocensure et leur dire que, bah oui, présumés innocents, ils ont peut-être eu raison de tenir. Ils ont peut-être eu raison de tenir parce que finalement, ils ont gagné en justice. que peut-être Larry Clark, la mairie de Paris aurait peut-être pas dû interdire aux moins de 18 ans. Peut-être simplement des mentions explicatives, la médiation justement. La médiation pour expliquer que peut-être toutes les œuvres de Larry Clark ne sont pas accessibles pour un jeune, mais c'est à chacun de décider. C'est à chacun de décider. Aussi la confiance, faire confiance au public. Aussi une variation selon le lieu. L'image, elle dépend du lieu. On ne sait pas ce qu'est l'art, mais peut-être, c'est Goodman qui le dit, on sait plus facilement quel est le moment art. Et donc, une œuvre exposée à un endroit n'a peut-être pas le même sens si elle est dans la rue. Voilà, donc tout ça, c'est des éléments, c'est la contextualisation, c'est ce que vous disiez. Oui. Et le droit doit prendre en compte cette contextualisation.
Oui, juste l'exemple que je donnais quand j'étais professeur à Saint-Denis, c'est que je n'avais jamais vu Nuit et brouillard à la Rennais. Hein, c'est à la Rennais. Et j'avais vu plein d'autres choses, puisque le thème de l'agrégation du CAPES, quand je l'ai passé, c'était guerre et paix de 1911 à 1946. Donc évidemment, tout ce qui est bien costaud au niveau de tous ces sujets enfin voilà, de l'extermination, etc. Je les avais abordés dans l'iconographie, mais je n'avais pas vu ce. Et évidemment, cette œuvre est au programme en troisième. Et donc je me suis dit, voilà, c'est une œuvre majeure dans ces programmes. Je vais la regarder avec mes élèves sans l'avoir regardée. Donc j'étais à Saint-Denis et j'ai regardé en même temps que mes élèves. Ça s'est terminé. Et là, mes élèves se sont retournés. Ils m'ont dit, mais pourquoi vous nous avez montré des images si horribles ? J'avais pas commencé le cours, c'était une introduction au cours de... Et là, j'ai vu qu'en effet, j'avais fait une erreur. Parce que ces images que... Enfin, je veux dire, ils sont habitués à voir... Enfin, ces images violentes, certes, parce qu'il y a des corps décharnés, il y a tous les charniers de Buchenwald, de Bergen-Belsen, etc. Mais je ne les avais pas avertis, je ne les avais pas préparés. Et alors que j'allais dire, je m'étais dit, non, mais ils cliquent sur Internet, ils voient des choses bien plus trash, bien plus violentes, ou je ne sais pas... Donc ça m'a fait réfléchir sur, en effet, même si j'étais leur prof d'histoire, que je veux dire, on était là, que j'étais bienveillante, ils savaient que j'étais bienveillante. Tout d'un coup, ils m'en ont voulu de les avoir. Et ça, moi, personnellement, je me suis dit, oui, je les ai presque violés psychologiquement à ce moment-là. C'est-à-dire, je leur ai imposé des images sans les avoir... en tout cas, avertis ou dit, attention, contextualisés. Voilà.
En sorte que s'il y a une distanciation dans l'exposition Martyr, peut-être que nous n'aurons pas le temps d'aller en jugement parce qu'elle sera retirée sous la pression publique, avant même qu'il y ait interdiction ou pas, au fond. Si ça se trouve, le propos est justifié, justifiable, intéressant, intelligent, mais on n'aura peut-être pas le temps de le savoir à cause de cette pression médiatique immédiate et sans précaution et qui n'a pas pris la peine de regarder la médiation, la légende et les cartels. Je ne prends pas la défense de cette expo parce que je ne l'ai pas vue et je ne la verrai sans doute jamais. Voilà. Mais peut-être qu'il y a lieu de penser qu'il y a cette espèce d'autocensure qui fait qu'on retire l'objet dès que ça buzz au fond.
Alors, pas compris la morale de ce que vous nous avez raconté.
Ce que je voulais dire, c'est que c'est la problématique que pose Laurent Gervereau, la manipulation par l'image, c'est que toute image qui n'est pas contextualisée, qui n'est pas expliquée, qui n'est pas, elle peut être, enfin, son impact sur le public, que ça soit un public d'adolescents, adultes, et va être complètement différent. C'est ça l'enjeu. L'enjeu de l'image, c'est que c'est la falsification de l'histoire ou la falsification de l'image. C'est le trucage, par exemple, dans un des livres que j'ai fait circuler, Lénine qui discourt en 1920 au milieu d'une foule. Il y a Kamenev et Trotsky à côté. 30 ans après, ils sont effacés de la photographie. Comment on présente l'image, comment on présente la réalité. Enfin, je veux dire, c'est toute la problématique des JT d'aujourd'hui. On passe d'une image de l'insoutenable avec, par exemple, un pendu en guerre d'Irak en train de brûler à la météo, comme ça, parce que la légende, la contextualisation, elle n'est plus de mise. On zappe sur les images. Et les images, elles sont fortes. Aujourd'hui, j'allais dire, un cadavre d'enfant, on passe à la publicité du déo Axe pour hommes. C'est la problématique de l'immédiateté, c'est ça aussi. On consomme de l'image comme, on consomme un pot de yaourt. Voilà.
Et il y a une dimension, autre aussi à la censure. Là, on a beaucoup parlé de censure, des interdictions. On arrête l'image, on arrête la publication, on arrête le spectacle. Mais il y a les censures juridiques, censure morale, et puis il y a une censure qui est celle qui est peut-être la plus ordinaire, qui est celle où on continue à montrer, mais sur ce travail de médiation, sur ce travail de légende, en fait, là, c'est encore une question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on raconte sur cette image? Et la manière de raconter les images, ce sont elles qui peuvent jouer le rôle de censure. C'est-à-dire que la langue communicationnelle, qui peut tout à fait lisser des images, qui peut lisser des situations, lire des comptes rendus de spectacle dans la presse, ou j'en sais rien. Mais il y a une censure qui dit pas son nom et qui est presque peut-être pire des fois aujourd'hui que les autres. Comme quoi, la médiation, du coup, parce qu'on a l'impression que demain, là, du coup, notre jeu pour demain, c'est faire attention aux médiations. Mais oui, c'est vraiment faire attention parce qu'elles peuvent être aussi, elles peuvent aussi desservir les images ou les supports dont elles traitent.
Alors, étant donné le temps qui passe, on va avoir une question ici. Ce sera peut-être la dernière, selon le temps de réponse. Et si on a le temps, on reprendra, monsieur.
Oui, alors on a parlé de la censure qui provenait de l'ordre moral ou de la pression journalistique ou du public. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui encore de censure gouvernementale?
Non. Non, il n'y a pas. Après, il y a vous trouverez sûrement sur Internet des gens qui vous expliquent que les politiques. Alors, c'est autre chose. Non, mais il n'y a pas. Il n'y a pas de censure gouvernementale en France de. Non.
À part économique, peut-être.
Oui, voilà, je pense.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Mais ce n'est pas de la censure. Vous pouvez avoir des propos. Vous pouvez avoir des propos, effectivement, qui tendent à dire que l'art des fracs est un art officiel. Mais ce n'est pas une censure. Alors, c'est-à-dire que ceux qui sont acquis, il y a ceux qui sont achetés, ceux qui ne sont pas achetés. Honnêtement, je n'ai pas de propos là-dessus. Mais juridiquement, non, il n'y a plus de censure gouvernementale. Il y a peut-être, effectivement, il y a un art qui est subventionné. Enfin, il y a des subventions. L'art en France est subventionné. Moi, ça me paraît une bonne chose. Il l'est de moins en moins. Effectivement, ça peut poser un problème par rapport à ceux qui bénéficient de ces subventions, c'est certain, et ceux qui sont en dehors de ce circuit de subventions. Est-ce que de là, on peut dire qu'il y a un art officiel en France? Peut-être, mais je crois que c'est plutôt les artistes qui pourraient en parler que moi, hein, parce que je connais moins bien ça. Oui, peut-être, de ce point de vue-là, oui. En tout cas, c'est un propos qu'on peut entendre, mais...
Non, je disais juste que c'était ça, justement, la censure. Voilà, c'est un art officiel.
C'est clientélisme.
C'est plus pernicieux, quoi.
Oui, c'est ça.
On n'a pas entendu.
Je disais justement que c'était là le sens du gouvernement de proclamer un art officiel. C'est une forme de censure qui élimine tout autre art à côté. On ne peut pas discuter, quoi. Voilà, c'est tout.
Alors, ce n'est pas une interdiction au sens strict, mais c'est un étouffement par l'absence de subsides, de programmation, de production et de diffusion.
Oui, mais à cet égard, il serait intéressant de faire un parallélisme entre les politiques publiques culturelles en France ou dans les pays européens et aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est particulièrement que les fondations privées, les mécènes. Et du coup, est-ce qu'il y a des variantes dans l'expression artistique américaine ou française? C'est une vraie question.
Sur la force de la répression, il y a un exemple qui remonte à Charlie Chaplin. Il avait travaillé depuis 1938 pendant plus de 2 ans sur la préparation du film Le Dictateur, et immédiatement une pression s'est déclenchée pour interdire le projet, le simple projet, et on lui a fait comprendre qu'il ne serait jamais distribué parce que c'était un problème de danger avec les pays sous Hitler. Donc, de son propre dossier, de son propre argent, il a monté tout seul le film. Et peut-être qu'il l'a payé même après la guerre, avec McCarthy.
Juste pour terminer, aux États-Unis, il y a une censure par rapport aux fonds privés qui soutiennent la création artistique. Par exemple, au niveau des ballets, comme j'étais danseuse, j'ai pas mal d'amis qui sont dans différents ballets du monde. Une amie était trop maigre, anorexique, et un des mécènes a dit non, elle ne monte pas sur scène parce que sinon je donne plus d'argent à cet opéra, enfin à ce théâtre. Voilà.
Merci beaucoup pour ce premier café. Merci beaucoup à nos intervenants. Oriane Moretti, Quentin Bazin et Edouard Trépose, Alain Blum pour la LICRA. Nous recommencerons, nous ne nous donnons pas de cadre strict, nous recommencerons sans savoir quand, mais nous recommencerons puisque vous nous y autorisez de toute évidence. Merci à tous.